Nous sommes le mardi 30 août. Bonjour et bienvenue à tous.
Si nous devions en arriver au rationnement, les entreprises seraient les premières touchées. Et nous devons malheureusement nous y préparer.
Voilà la mise en garde d'Elisabeth Borne hier au chef d'entreprise devant la rencontre, à la rencontre des entrepreneurs de France. La réunion de rentrée du MEDEF, réduire la consommation de 10%, sa consommation d'énergie quand on est une entreprise. Plus facile à dire qu'à faire, un témoignage dès le début de ce journal. À Mulhouse, l'agresseur d'un médecin généraliste de SOS Médecins écope de 5 ans de prison ferme. Il avait tiré au fusil à billes sur le praticien accusé d'avoir mis trop de temps à se déplacer jusque chez lui. Et puis le voyage de la Lune attendra. Décollage retardé hier pour la fusée Artemis. La NASA a détecté une série de problèmes techniques. On va tout vous raconter.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
Tout vous raconter dans le journal de Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Un homme averti en vaut deux. Elisabeth Borne a remis au goût du jour ce vieux proverbe au discours très attendu de la Première Ministre à l'Université d'été du MEDEF. Le cap est donc fixé. La chef du gouvernement leur laisse un mois pour boucler leur propre plan de sobriété énergétique. Objectif moins 10%, sinon gare aux coupures.
Alors une question ce matin, est-il possible de bâtir un plan de réduction de sa consommation d'énergie en si peu de temps?
Eh bien il faut regarder du côté de la Colombie qui a adopté une mesure similaire après 6 mois d'études. Vincent Ciandra est le directeur général de Metron, entreprise spécialisée dans la réduction de la consommation énergétique. Il a accompagné et aidé des patrons sur place. Pour lui, pas de doute, le délai demandé par Elisabeth Borne est trop court.
Il faut savoir que 10% de la consommation énergétique des entreprises, c'est énorme. Ça peut être un changement drastique de fonctionnement d'entreprise, changer des horaires de travail pour des entreprises plus de bureaux ou carrément sur des usines, changer la façon dont on produit ou les heures dont on produit. Donc, d'être capable d'analyser vraiment chaque partie du process industriel, ça va être aussi dans certains cas de changer certaines machines pour qu'elles soient efficientes, changer des moteurs avec des moteurs avec des technologies qui consomment moins d'énergie aujourd'hui. Donc on parle ici de réduire la consommation, on parle aussi d'investir, de changer des équipements. Donc c'est, comme vous le voyez, quelque chose qui peut être colossal. J'aimerais être extrêmement optimiste et vous dire non, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de coupure cet hiver. Très honnêtement, le temps de prise de décision, le temps d'action, le temps de mise en place des systèmes, parce que je vous mets au défi de savoir à l'instant T ce que vous consommez comme énergie. Ça veut dire qu'il faut s'équiper, comprendre, visualiser, derrière monter des plans d'action, après faire en sorte que tout le monde dans l'entreprise soit autour de ce plan d'action et le mette en place. Le risque de délestage est tout à fait réel.
Vincent Ciandra, directeur général de Metron, entreprise spécialisée dans la réduction de la consommation énergétique. Il était au téléphone avec Victor Chabert.
Voilà, délestage, hein, comprendre, coupure hein, d'électricité. Alors des entreprises qui sont aussi confrontées à l'explosion des prix du courant et du gaz. Hein, la situation est encore plus inquiétante pour les PME, les petites et moyennes entreprises dans les Vosges. Elles ont décidé de s'organiser.
Elles ont effectivement décidé de se regrouper pour faire pression sur les fournisseurs d'énergie. La Chambre de commerce et d'industrie vient de mettre en place un système d'achat groupé, de quoi leur permettre de limiter un peu la facture. Reportage d'Athéna Gazelman.
x10 sur la facture énergétique. Voilà ce qui attend l'entreprise Hydreo pour l'année prochaine. De quoi lourdement impacter le budget, selon le PDG Clément Benamou.
Aujourd'hui, on a une composante énergétique qui est relativement minoritaire, qui tourne aux alentours des 4 à 6% de nos coûts d'exploitation. Par contre, les hausses qui se préparent pour l'automne, là, risquent de nous emmener beaucoup plus loin. Si on doit comparer ça à du recrutement, ça représente 3 ou 4 équivalents temps plein.
Le chef d'entreprise n'a donc pas hésité à participer à l'achat groupé de la CCI des Vosges. Sans ça, il n'était d'ailleurs même pas sûr de trouver des fournisseurs.
Là, les contrats arrivent à terme et ne sont pas renouvelés par certains de nos fournisseurs. On a notamment un gazier qui dénonce le contrat sans souhaiter nous en proposer un nouveau.
En s'associant, les petites et moyennes entreprises pourront peser plus lourd dans la négociation. Mais la facture restera salée, prévient Arnaud Guillaume, en charge du dossier à la CCI.
Il ne faut pas s'attendre à ce qu'on fasse des économies par rapport au contrat précédent. Là, on va vraiment plutôt limiter la casse.
Les entreprises intéressées ont jusqu'au 16 septembre pour s'inscrire avant la négociation avec les fournisseurs. Épinal, Tatiana Gieselman, Europe 1.
Il est 7h05. La politique Emmanuel Macron a reçu les candidats de la majorité battus aux dernières législatives hier soir à l'Élysée.
Et environ 150 invités et quelques têtes connues comme l'ancien président de l'Assemblée Richard Ferrand ou encore l'ex-ministre et patron de groupe Christophe Castaner. Une séance pour soigner les égos, mais pas seulement. Bonjour Jacques Serret.
Bonjour.
Du service politique d'Europe 1, vous étiez à cette réception. Le président avait aussi un autre objectif, remobiliser les troupes.
Oui, dans les jardins de l'Élysée, petit four et champagne pour les près de 150 invités du président. Point commun de ces convives d'un soir, tous ces marcheurs ont échoué à remporter la bataille des législatives, à l'image de Bruno Castel, candidat à sa réélection dans l'heure, éliminé dès le premier tour.
Il a été très sensible et respectueux de l'engagement qui a pu être le nôtre et aussi de poser clairement le défi des années futures.
Il y aura d'autres échéances, des matins de combat et des soirs de conquête, a insisté le chef de l'État auprès de ses candidats malheureux. De quoi remotiver Sonia Crimi, ex-députée de la Manche à la sortie du palais.
Il a parlé des futurs sénatoriales parce qu'il y a un renouvellement du Sénat l'année prochaine. Il a parlé des départementales, des européennes qui vont arriver très très vite.
Mais n'est-ce pas là ignorer le message des Français qui n'ont pas voté en leur faveur? Elisabeth Moreno, ex-ministre déléguée et candidate pour les Français de l'étranger, s'en défend.
Accepter une défaite et se retrouver pour réfléchir à l'après, c'est ce que j'appelle de la responsabilité. Ne pas le faire, c'est de la lâcheté.
Et ainsi, Emmanuel Macron prépare déjà l'après avec ses personnalités issues de la société civile qui s'étaient pourtant jurées de ne pas faire de carrière politique. L'ancien monde n'est jamais trop loin.
Jacques Serret.
L'affaire avait provoqué la colère de SOS Médecins qui avait même suspendu ses visites à domicile le week-end dernier à Mulhouse. L'agresseur d'un médecin généraliste écope de 5 ans de prison ferme.
Oui, il avait mis trop de temps à se déplacer pour soigner sa femme. C'est en tout cas ce qu'il a expliqué au tribunal, jugé en comparution immédiate. Il a été condamné à 5 ans de prison ferme. L'avocat du médecin, maître Raphaël Nissan, salue une décision exemplaire.
Est-ce que vous vous rendez compte de ce que cela veut dire quand vous êtes appelé comme médecin, que vous allez chez votre patient un samedi midi pour le secourir et qu'on vous accueille en vous insultant, en vous disant qu'on va vous tuer et en joignant le geste à la parole et en faisant feu alors que le médecin avait tourné les talons et voulait juste s'enfuir. Cette dérive doit évidemment être stoppée. Non, c'est pas trop. Vraiment, l'affaire n'a pas été minimisée. C'est un verdict qui est rendu en toute connaissance de cause, y compris dans sa sévérité. Et la présidente en a d'ailleurs parlé en disant que voilà, c'était lié à la gravité des faits, lié à la personnalité du prévenu, au fait qu'il était déjà multirécidiviste. Et on aboutit à cette peine qui est exemplaire. Je n'en connais pas d'aussi sévère.
Maître Raphaël Nissan, avocat du médecin agressé samedi à Mulhouse, il était avec Clotilde Dumais. On rappelle que l'agresseur avait tiré avec un fusil à billes.
Aux États-Unis maintenant, lancement retardé pour la fusée Artemis.
Ah oui, elle devait décoller hier après-midi de Cap Canaveral en Floride pour un voyage d'une quarantaine de jours sans équipage autour de la Lune. Un départ repoussé par la NASA. Alexis Guilleux, vous êtes notre correspondant aux États-Unis. Il faut dire que la NASA a connu une succession de problèmes techniques.
Oui, avec d'abord une fuite d'hydrogène liquide, ce carburant qui alimente la fusée, puis les ingénieurs n'ont pas réussi à faire suffisamment refroidir l'un des quatre moteurs de l'appareil. À cela s'est ajouté un risque d'orage et de foudre à l'approche de la fenêtre de tir, lancement donc avorté, mais un décollage est toujours possible pour la fin de semaine, assure Michael Sarafin, le directeur de la mission Artemis.
Il nous faut du temps pour regarder les données, mais nous conservons l'option d'un lancement vendredi. On veut tous assister à cette étape importante, mais c'est très difficile. On essaie de faire quelque chose qui n'a pas été fait depuis 50 ans. On travaille avec de nouvelles technologies, de nouvelles équipes, de nouveaux logiciels. On apprend tout au long de ce chemin.
Les ingénieurs de la NASA vont donc se réunir dans la journée pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé. Pour le moment, pas d'inquiétude. Il n'est pas question de remplacer l'un des quatre moteurs de la fusée Artemis, la plus puissante jamais construite. Mais la pression va s'accentuer sur l'agence spatiale américaine, car après ce vol d'essai, la NASA compte toujours envoyer deux astronautes sur la Lune en 2025. Une étape indispensable pour espérer un jour s'envoler vers Mars.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
Allez, un mot de tennis, entrée réussie à l'US Open pour la future retraitée Serena Williams.
L'américaine qualifiée pour le second tour après sa victoire en 2-7 sur la monténégrine Danka Kovidic. Qualification également de la française Caroline Garcia. Chez les hommes, une surprise, élimination du numéro 5 mondial Stefanos Tsitsipas dès le premier tour.
Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal. Dans un instant sur Europe 1, l'invité éco d'Europe Matin, on va se pencher sur ce mystère. Malgré l'inflation, la saison touristique a été absolument remarquable. On va en parler avec Jean-François Rial de Voyageurs du Monde. Et puis l'édito éco de Nicolas Bouzou. D'après vous, qui souffre le plus des sanctions contre la Russie? Sont-ce les Russes ou les Européens? Réponse dans 10 minutes.
7h, 9h,
Europe Matin.
Il est 7h11 sur Europe 1, le journal permanent, Alban Le Prince.
Emmanuel Macron présidera un conseil de défense vendredi matin sur l'approvisionnement en gaz et en électricité en vue de l'hiver. Objectif, éviter les coupures et le rationnement énergétique. Elisabeth Borne, la chef du gouvernement, le ministre de l'économie et sa collègue à la transition énergétique y assisteront. En Ukraine, l'armée a lancé une contre-offensive hier pour reprendre le contrôle de la ville de Kherson aux mains des Russes. Kiev fait état de succès ponctuelle alors que Moscou assure avoir repoussé l'armée ukrainienne et lui avoir infligé de lourdes pertes. Nouvelle fenêtre de tir envisagée vendredi pour la mission Artemis. La plus puissante fusée du monde n'a pas pu décoller hier en raison de problèmes techniques. Je vous rappelle que la mission Artemis a pour but de renvoyer des hommes sur la Lune. Et puis deux filiales et trois salariés de la SNCF seront jugés. Deux juges d'instruction ont ordonné un procès dans l'affaire du déraillement d'un TGV DC qui avait fait 11 morts et 42 blessés en 2015.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
7h12, c'est l'heure de l'invité écho, de l'invité de l'actualité sur Europe 1. Quel bilan pour le tourisme cet été? Nous sommes en ligne avec le PDG de Voyageurs du Monde. Bonjour Jean-François Rial.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1. Je rappelle, vous êtes aussi le président de l'Office de tourisme de Paris. Le tourisme aussi, rappelons-le, c'est un secteur important de l'économie française. C'est à peu près 7 points de PIB, 2 millions d'emplois. La ministre chargée du tourisme, Olivia Grégoire, a qualifié hier l'été 2022 d'exceptionnel. Qu'est-ce que ça donne précisément quand on affine cette description de l'été écoulé, Jean-François Rial, du point de vue des professionnels?
On a traversé deux étés très difficiles pendant le Covid, donc forcément il y avait une envie de voyager autant de la part des Français d'ailleurs que des étrangers, c'est un phénomène mondial très fort parce que les gens voulaient un peu se rattraper, donc oui, l'été est exceptionnel, mais en même temps c'est un peu normal parce que les gens se rattrapaient énormément. Et donc, se sont mis énormément à voyager pour en profiter parce qu'ils ont été très, très, très privés, quoi. Voilà. Donc, toutes les destinations pratiquement du monde entier ont marché, la France comprise.
Alors, et où justement les Français sont-ils partis? On voit que sur les cartes qui commencent à être montrées, la destination France a bien marché, mais l'Europe aussi d'une manière plus générale, Jean-François Rial, le soleil, la Méditerranée,
Oui, bien sûr, la Grèce très très fort, l'Italie très fort, l'Espagne bien sûr, mais pas que, la Tanzanie, les États-Unis, le Mexique, la Polynésie. Je dirais que les Français ont quand même fait beaucoup beaucoup de long courrier cet été, plus que d'habitude. Donc l'histoire, ils ont beaucoup voyagé en France et en Europe, oui, mais pas que, Ils ont surtout beaucoup voyagé, quoi, tout simplement. Et d'ailleurs, il suffit de voir dans l'autre sens ce qui s'est passé à Paris. Il y a eu plutôt, on n'a pas eu les Russes, on n'a pas eu les Européens de l'Est pour les raisons qu'on connaît. On n'a pas eu de Japonais, on n'a pas eu de Chinois. Et pour autant, on a eu plus de touristes étrangers que d'habitude au global. Vous voyez, donc les gens ont voyagé, quoi, tout simplement. On appelle ça le revenge travel, c'est prendre sa revanche sur le voyage. Bon, ben voilà, quoi. En fait, le vrai sujet pour savoir si les voyages ont repris fortement, ça va être septembre-octobre. On verra si vraiment les gens se remettent à voyager normalement, parce que là, on était dans un phénomène de rattrapage.
Ah oui, et donc ce bel été pourrait n'être qu'une parenthèse avant retour à une plus grande morosité, à une plus grande sobriété.
C'est possible parce que vous êtes dans un phénomène où vous avez des tensions géopolitiques fortes, vous avez des tensions également climatiques qui inquiètent les gens. Une pression sur les prix, sur l'énergie. Vous avez parlé du Conseil de défense que le président Macron va monter. Donc tout ça va faire monter les prix, va faire monter les prix et va inquiéter les gens. Donc c'est pas certain que ce qu'on a vécu depuis quelques mois. Et d'ailleurs, autant vous voyez, l'été a été très très bon en termes de départ. En termes de réservation, on était sur des croissances de 40-50% jusqu'à fin juin. Cet été, en termes de réservation, on a été sur des niveaux normaux. Donc la croissance s'est arrêtée. Alors on est sur une période particulière, parce que l'été, les gens réservent peu leur voyage en termes de réservation. Ils l'ont fait largement avant. Mais ça a quand même ralenti. Donc on va voir si septembre, octobre, qui vont être des mois décisifs, vont permettre de voir si le voyage va retrouver des couleurs normales ou pas.
Après, c'est vrai, il y a une prise de pouvoir aussi du client. Il y a deux ans, où avec un assouplissement, on réserve à la dernière minute de plus en plus. Ça, c'est l'un des acquis du Covid. J'allais vous questionner, Jean-François Rial, vous demander s'il n'y avait pas un paradoxe. On ne cesse de dire que les Français sont inquiets de l'inflation, qu'ils font des arbitrages de dépenses, qu'ils se privent de certaines choses, qu'ils descendent en gamme pour certains produits. Et en même temps, on a cette très belle saison. Mais venez nous dire que finalement, voilà, c'est ce côté revanche, consommation, revanche, de l'été avant peut-être serrage de ceinture à nouveau.
Oui, parce qu'ils n'avaient pas dépensé dans les voyages depuis 2 ans. Vous voyez, ils ont fait des économies, les Français, pendant 2 ans. Donc, effectivement, ils se sont lâchés. Et puis, ceux qui voyagent sont quand même ceux qui ont des problèmes les moins importants dans le pouvoir d'achat. Oui. Vous n'avez que 25% des Français qui voyagent à l'étranger, par exemple. Oui. Vous n'avez que 60% des Français qui voyagent l'été. Donc, il y a des gens qui, malheureusement, pour des raisons budgétaires, ne voyagent pas, quoi. Et ceux-là, évidemment, ils sont plus touchés. Ouais. 60% qui voyagent.
Qui partent en vacances.
40% qui ne voyagent pas, quoi. Ouais, ouais. 40% qui ne voyagent pas l'été, quoi. Donc,
Alors, tiens, justement, pour le professionnel du tourisme que vous êtes, président de l'Office de tourisme de Paris aussi, j'ai une question importante, un peu plus large. D'après vous, est-ce que le concept d'art de vivre à la française, est-ce que ça suffit à garantir à la France ses parts de marché d'un tourisme mondial qui devient de plus en plus concurrentiel, on le voit, hein.
Alors, c'est un atout considérable, mais on pourrait penser qu'il faut faire attention, que ça pourrait ne pas suffire. Il faut communiquer de façon intelligente, de façon positive, en sortant des clichés, hein. Communiquer sur les clichés, c'est une catastrophe pour moi. Il faut communiquer de façon plus subtile, de façon plus émotionnelle. La France ne le fait pas toujours très bien, ça, je pense qu'il y a des choses à améliorer là-dessus. Et bien sûr, il faut améliorer l'expérience client, c'est-à-dire que il faut éviter les queues, il faut éviter la concentration des touristes sur des certains sites, il faut mettre en place des systèmes de réservation adaptés, il faut mieux répartir les clients sur le territoire, à la fois dans le temps et dans l'espace. Je dirais que tout ça est nécessaire, il faut que la qualité du service soit optimale, ce qui n'est pas toujours le cas des principales des principaux sites les plus importants qu'on visite en France. Donc tout ça, ça fait qu'il va falloir effectivement, comme la concurrence est très très forte, qu'il y a à la fois des pays très très puissants comme les États-Unis, l'Espagne, l'Italie, le Japon qui sont archi demandés, plus des destinations nouvelles qui se développent. Bah, il faut faire attention à tous ces sujets-là, quoi. Faut sortir un peu de ce que j'appelle une forme de ringardise sur la communication touristique qui n'est pas spécifique d'ailleurs à notre pays, hein, qui est un peu mondial. Il faut communiquer plus beau, plus émotionnel, plus qualitatif, plus expérientiel. Voilà, mais c'est un vrai travail de longue haleine.
Merci Jean-François Rial de votre regard de professionnel sur ce bilan touristique de l'été 2022. Peut-être une parenthèse avant refermeture. Je rappelle que vous
Merci
êtes aussi
vous.
Président de l'Office de tourisme de Paris. Bonne journée Jean-François Rial, il est 7h20.
Hello Work, la première plateforme française de recrutement vous présente l'édito éco.
Bonjour Nicolas Bouzou.
Bonjour Dimitri.
On change de sujet, enfin quoique. L'Union européenne doit-elle interdire les visas à tous les ressortissants russes? Jean-François Rial nous disait à l'instant, il n'y a pas eu de Russes à Paris cet été notamment. Les 27 vont débattre de cette question aujourd'hui, ils sont très divisés. Et il y a aussi ce bruit qui court depuis cet été. Il paraît que les sanctions économiques contre la Russie ne seraient pas si efficaces que cela.
Oui, alors ça, en fait, c'est la propagande russe qui est très présente en France, en particulier sur les réseaux sociaux, et qui considère en effet que l'Occident souffrirait davantage économiquement des sanctions contre la Russie que la Russie elle-même. Alors, il ne faut évidemment pas croire aveuglément la propagande d'une dictature qui a envahi un pays voisin. D'ailleurs, remarquez que la Russie ne publie plus un certain nombre de statistiques économiques, par exemple sur le commerce extérieur ou sur les flux financiers, ce qui est sans doute un aveu de fébrilité. Alors on peut quand même tirer des chiffres dont on dispose quelques estimations. La récession en Russie, elle sera de l'ordre de 6% cette année, il y aura encore sans doute 3% de récession l'année prochaine, l'inflation tourne autour de 20%, la consommation est en baisse de l'ordre de 15%, la plupart des multinationales qui étaient en Russie ont arrêter leur activité. Certaines ont même quitté le pays et puis certaines filières sont complètement à l'arrêt. C'est le cas par exemple de la production automobile. Alors c'est vrai que la Russie souffre moins que l'Ukraine, mais enfin la Russie souffre nettement plus que l'Occident et la propagande russe est donc de ce point de vue la fausse.
Alors, on voit ceci dit le rouble, la monnaie russe évoluer à un cours assez élevé quand l'euro lui baisse et coûte moins d'1 dollar. On voit que la Russie enregistre aussi des surplus commerciaux records, ça va pas si mal.
Alors vous avez raison Dimitri, mais ce surplus commercial et le niveau niveaux élevés du rouble sont au contraire une preuve de faiblesse de l'économie russe. Alors certes, la Russie exporte toujours beaucoup d'hydrocarbures, mais les importations ont chuté, ce qui fait augmenter le surplus commercial. Elles ont baissé de 40% depuis le début de la guerre, ce qui est normal en raison des sanctions. Même si le rouble est élevé, de toute façon, les Russes ne peuvent rien acheter avec leur rouble. Ce que l'on voit aussi, c'est que la Russie paye ses importations de plus en plus cher, par exemple, dans le domaine des médicaments. Alors cette impossibilité à importer ou alors à des prix très élevés, ça pose tout un tas de problèmes. De renouvellement des stocks d'armes, par exemple, pour l'armée, ça pose des difficultés à mettre en place de nouvelles infrastructures gazières, par exemple, pour exporter des hydrocarbures vers la Chine.
Tiens, à propos de la Chine, est-ce qu'elle n'est pas en train de remplacer l'Occident comme partenaire économique majeur de la Russie?
Alors ça aussi, c'est ce qu'on entend, Dimitri, mais c'est pas évident. En tout cas, on voit pas grand-chose dans les chiffres. Alors c'est vrai que quand on regarde les exportations chinoises vers la Russie, il y a une hausse, mais quand on regarde les exportations chinoises vers tous les pays, il y a une hausse en fait à peu près similaire. Je pense que ça dit surtout des choses de la reprise industrielle en Chine après les périodes de confinement du printemps. Non, la vérité, c'est que la Russie est très affaiblie économiquement, elle est très affaiblie du coup militairement et pour très longtemps. C'est un pays dont la puissance géopolitique va être de plus en plus affaiblie par le déclin économique. Les sanctions ont rendu le coût de la guerre prohibitif. Il faut donc, selon moi, les tenir, voire les amplifier.
Merci Nicolas Bougeot. On parlera de la guerre en Ukraine tout à l'heure à 7h40 avec Vincent Hervouet pour l'édito international. Merci Nicolas,
merci.
Bonne journée. À demain, 7h23.
C'était l'édito Éco avec HelloWork, la première plateforme française de recrutement. Chaque jour, plus de 4000 recrutements partout en France grâce à HelloWork. Plus d'infos sur le site ou l'application. Europe Matin.
L'essentiel de l'actualité résumé par Alban Le Prince, c'est le journal permanent sur Europe 1.
Et Europe 1 s'est procuré en exclusivité une note du renseignement territorial qui tente d'expliquer pourquoi 7 musulmans sur 10 ont voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle. Et bien les islamistes auraient joué un rôle majeur, même auprès des plus modérés. Alors que la menace de coupure d'électricité cet hiver plane, Emmanuel Macron présidera un conseil de défense vendredi matin au cœur des discussions, l'approvisionnement en gaz et en électricité. Le directeur général de la Coupe du Monde de rugby prévue en France l'année prochaine, mise à pied, Claude Haché, est accusé d'avoir mis en place un management par la terreur, à l'origine de nombreuses démissions et burn-out des salariés. On termine avec du tennis à l'US Open des Français, qualifiés pour le second tour, Corentin Moutet, Hugo Grenier, Arthur Rinderknecht, Benjamin Bonzi et Caroline Garcia. À suivre aujourd'hui, Taro Daniel, Richard Gasquet ou encore Cameron Norrie, Benoît Paire.
Moi, président de la République.
Allô, Jacques Paul.
Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance.
C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ».
Voici les Rolling Stones.
Le 30 août 2001, il y a 21 ans pile, la BCE réunissait toute la presse européenne à Francfort pour lui présenter les premiers billets de banque libellés en euros. Bonjour Lord Autriche.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Ah, l'introduction de la monnaie unique, elle a beaucoup déstabilisé les Européens à l'époque. Les archives que vous avez retrouvées montrent que quelques mois avant l'introduction de l'euro, beaucoup craignaient une hausse des prix. Ça nous parle en ces temps de pic d'inflation.
Oui, le débat commence 6 mois avant la mise en place de l'euro en janvier 2002. Certains commerçants utilisent l'euro comme prétexte à des hausses de prix abusives, explique en septembre 2001 le ministre des Finances Laurent Fabius, notamment dans la boulangerie, la coiffure ou la réparation d'électroménagers, et il prévoit de sanctionner les commerçants.
Avec relevé tous les 15 jours de prix, rappel à l'ordre, et dans le cas du passage des francs aux euros, lorsqu'il y a des abus dans la conversion, il y aurait immédiatement un procès verbal.
L'euro, c'est aussi toute une organisation, toute une préparation pour cette boulangère Marie-Claude Brion qui calcule sans calculatrice quelques antisèches tout de même.
Voilà, j'en mets partout. Des petits pense-bêtes. Bon, les gens les voient pas, mais moi, je sais à quoi ça correspond. Moi, j'en ai collé à côté de ma caisse avec le prix du franc converti en euros, le prix de ma viennoiserie, le prix de mes baguettes. Pour pas chercher combien ça fait la soustraction, l'addition.
Et cette boulangère aide même à l'époque ses clients à apprendre à convertir les francs en euros.
Alors, à l'époque aussi, on pouvait acheter des euros chez les buralistes.
Oui, c'est vrai. Et là aussi, le sujet faisait débat. Ce cafetier ne veut pas vendre d'euros à quelques semaines de l'entrée en vigueur.
C'est pas notre métier de vendre des sacs d'euros. C'est le métier des banques.
Attendez, quand vous pensez que les banques vont pas être ouvertes le 1er janvier alors que c'est une chose essentielle, moi je trouve ça là, désolant.
Et puis le patron des magasins Leclerc, Michel-Édouard Leclerc, voit à l'époque le passage à l'euro comme un gentil bordel.
Moi je suis sûr que ça va être un gentil bordel quand même. Hein. Je m'excuse du mot, mais il faut quand même dire les choses. Pourquoi ? Bah parce que les hommes politiques ont fait de nos caissières des banquiers. Hein. N'oubliez pas qu'un tiers des euros mis en circulation vont l'être par nous et on nous a demandé de récolter les francs. Il y aura plein de petits picotements et ça va être très énervant.
Le prix des produits, c'est vrai, a souvent augmenté, reconnaît à l'époque Michel-Édouard Leclerc, mais pas à cause du passage à l'euro. Les grands industriels avaient décidé d'augmenter leurs prix l'année précédente, disait-il à l'époque.
Voilà, que tout cela nous paraît loin et pourtant si proche. Merci beaucoup, Laure d'Autriche. Allez, dans quelques minutes, le journal de Romano, quel journal de 7h30. Et puis, une petite surprise pour vous, une petite lecture de Michel Houellebecq dans les 20 prochaines minutes. À tout de suite. Le journal vous est présenté par Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Et chez vous, est-ce que tout est prêt? Cartable, trousse, crayon de couleur? Non, deux jours. Deux petits jours, voilà ce qu'il vous reste pour préparer les affaires de votre enfant. 12 millions d'élèves de retour en classe dès jeudi et autant de parents stressés. Là, vous vous dites, pourvu que je n'ai rien oublié. Zen, il y a les conseils de Marine Sabouin.
La première chose à faire, c'est de vérifier si le carnet de santé est bien à jour. Pour rentrer en maternelle, 11 vaccins sont obligatoires. Pascal Leroux, secrétaire général du Conseil national de pédiatrie.
Diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, la vaccination hémophilus, le pneumocoque.
Puis des rappels seront nécessaires à l'entrée en primaire et au collège. Alors rassurez-vous pour les retardataires, hein, l'école est indulgente. Il sera possible de prendre rendez-vous après la rentrée auprès des pédiatres.
On fera confiance un peu aux familles pour que rapidement elles mettent à jour le retard. Il y a un retard, mais qu'ils ne s'éternisent pas non plus.
Ensuite, il y a le contrôle ophtalmologique, pas obligatoire, mais fortement conseillé. Lecture, écriture, écran, pas moins de 8 informations sur 10 passent par les yeux à l'école. Un rendez-vous est donc recommandé à chaque changement de cycle. Enfin, il y a la dentition à contrôler chaque année à partir de 2 ans, dès l'apparition des dents de lait. Pour terminer, rappelons que le protocole Covid à l'école est allégé au maximum. La vaccination pour les élèves dès 5 ans reste recommandée, mais pas obligatoire.
Marine Sabourin du service Société d'Europe 1, les élèves qui n'auront pas non plus à glisser de masque dans leur cartable, il n'est plus obligatoire à l'école, ni pour les enseignants, ni pour les professeurs.
Alors, les profs, justement, font leur rentrée, eux, dès demain.
Oui, jour de pré-rentrée pour près de 900 000 enseignants. Alors, la routine pour beaucoup, une première, en revanche, pour les 3000 contractuels recrutés cette année, après une formation express de 4 jours, une méthode qui inquiète Florence Comte. Elle est directrice d'école dans le Var et secrétaire du syndicat national des directeurs.
On trouve que déjà ça discrédite quand même la profession de dire qu'on peut former des adultes pour être devant des élèves au bout de 4 jours. Et puis parce qu'on pense qu'on les met quand même dans des situations compliquées, eux et les élèves. Les enseignants titulaires voient d'un bon œil l'arrivée des contractuels. En tout cas, ils n'en veulent absolument pas à ces contractuels. Nous, on est plein de bonne volonté pour les aider, mais on n'est pas formateur d'enseignants. On va faire ce qu'on peut sur le terrain tout en ayant pour 8 directeurs sur 10 aussi une charge d'une classe, soit entre 1 et 4 jours par semaine. On va faire ce qu'on peut pour les aider, mais on n'est pas formateur. Donc voilà, on va faire ce qu'on peut, eux aussi, mais les contractuels n'y sont absolument pour rien. Ce qu'on déplore, c'est les méthodes de recrutement mises en place par l'État.
Florence Comte, secrétaire du syndicat national des directeurs d'école.
La rentrée scolaire, c'est donc le 1er septembre, date avec une bonne et une mauvaise nouvelle pour le porte-monnaie.
Alors, je commence par la bonne. Jeudi, la remise sur le prix du carburant passera de 18 à 30 centimes. Et jusqu'à la fin du mois d'octobre, la mauvaise, en revanche, concerne les conducteurs de deux roues à Paris.
Et oui, si vous roulez à scooter ou à moto, le stationnement va devenir payant dans la capitale.
Oui, 2 à 3 euros de l'heure dès jeudi. Un tarif dissuasif pour lutter contre la pollution et le bruit. Mais forcément, ça passe mal auprès des intéressés.
C'est vrai que ceux qui sont en deux roues, ils vont un peu râler. Mais c'est vrai que ça, pour moi, ça va faire un peu mal, parce que des fois, j'ai des déplacements à Paris. 2 euros, c'est un budget déjà que l'essence, il a augmenté.
Moi, qui travaille sur Paris tous les jours, je sais pas comment je vais faire. Si on compte une journée au minimum à 25 euros, oh, je vais attendre des amendes, savoir comment ça va se passer, savoir s'il va y avoir assez de contrôleurs ou pas, et je sais pas comment on va faire.
Je suis quand même très sensible à l'écologie, malgré le fait que je pollue en roulant. Quand je me prendrai une prune, là, je dirai « Ah non, je suis contre !»
Les deux roues électriques, c'est pas pour tout de suite, hein, que ce soit abordable. Puis le plaisir du deux roues, c'est pas forcément que ce soit électrique.
À noter que la Fédération française des motards en colère a déposé un recours devant la justice. Son représentant a rendez-vous aujourd'hui à la mairie de Paris.
Il est 7h35 sur Europe 1. En attendant le 1er septembre, nous sommes le 30 août. L'été tire bientôt sa révérence. Pourtant, la carte de France reste bien rouge. La carte de la sécheresse qui est historique cette année.
Oui, aucun territoire n'est épargné, pas même le nord du pays. Les Hauts-de-France se préparent même à une récolte catastrophique dans les champs de pommes de terre. L'Union des producteurs s'attend par endroits des rendements divisés par deux.
Voilà, une région où le sol argileux souffre particulièrement du manque d'eau au point de fissurer les maisons.
Oui, quelques millimètres jusqu'à quelques centimètres. C'est la crainte justement des propriétaires qui redoutent l'arrivée de l'automne. Lionel Gougelot les a rencontrés pour Europe 1.
Une fissure, c'est quelque chose qui est de cet ordre de grandeur-là. Vous voyez, de 2, 3, 4 mm. Puis après, vous avez, dans certaines maisons ici, on passe la main.
Et ces fissures provoquées par une sécheresse historique et l'affaissement des maisons construites sur un sol d'argile risquent bien de s'aggraver, prévient Albert Dehaut, président d'une association de sinistrés dans les Flandres, quand les pluies d'automne feront gonfler le sous-sol, une sorte de bombe à retardement, selon lui.
Parce qu'il y aura donc affaissement de la fondation, et là, il y aura des fissures qui vont apparaître. Mais au regonflement, l'argile va reprendre son eau, et là les fissures vont s'ouvrir. Vous aurez des maisons qui vont s'ouvrir.
Au sud de la métropole lilloise, Thierry Paris a lui-même été victime de ce phénomène, alors lui aussi met en garde contre cette catastrophe silencieuse qui risque de toucher des centaines d'habitations dans la région.
Une fois qu'une maison a bougé, de toute façon c'est irréversible. Elle va bouger de plus en plus et ça va générer des travaux de plus en plus importants. Une petite fissure n'est pas anodine. C'est-à-dire qu'effectivement il y a beaucoup de propriétaires qui constatent des petites fissures et ne font rien parce qu'ils pensent que la maison a bougé naturellement. Donc dès lors que l'on constate la moindre fissure, il faut alerter.
Alerter, c'est d'abord saisir la mairie pour que soit reconnu l'état de catastrophe naturelle. Viendra ensuite le long combat avec les experts et les assurances. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
Et la sécheresse qui assoiffe presque toute la planète, conséquence notamment au Pakistan avec des terres imperméables, incapables d'absorber les pluies torrentielles de la mousson. Les images sont glaçantes, terrifiantes même. Au moins 1100 morts. Les Nations Unies ont décrété l'état d'urgence et lancent aujourd'hui un appel aux dons.
La guerre en Ukraine où la tentative d'offensive de Kiev aurait échoué dans le sud du pays, dans la région de Kherson.
Oui, c'est en tout cas ce qu'affirme Moscou. La contre-attaque de l'Ukraine vise à reprendre Kherson, ville entre les mains des Russes. La guerre qui n'empêche pas le maintien des exercices militaires conjoints entre la Russie et la Chine. Les militaires chinois arriveront sur le territoire russe en fin de semaine.
Les sports, à un an de la compétition, la Coupe du monde de rugby qui est prévue en France n'a plus de patron.
Oui, Claude Hachi, organisateur de l'événement, a été mis à pied à titre conservatoire hier soir, mesure avec effet immédiat. Bonjour Dimitri Vernet.
Bonjour.
Vous êtes le monsieur sport de la matinale d'Europe 1. Déjà Dimitri, expliquez-nous. Qu'est-ce qu'on lui reproche ?
Eh bien, sont ciblées ses méthodes de management par la terreur ainsi que le climat toxique au sein de sa structure, ce qui est loin d'être surprenant puisqu'il y a 2 mois, une enquête choc est sortie sur les coulisses de l'organisation de la Coupe du Monde 2023, comportant de nombreux témoignages allant de ce sens. Alors pour le moment, cette décision est prise à titre conservatoire, dans l'attente de la réception des conclusions de l'inspection du travail commandée par le ministère des Sports. Mais un conseil d'administration doit se tenir vendredi pour entériner cette décision. À un an de la Coupe du Monde, cela fait tâche, surtout quand on sait que Claude Hachi sera dans les prochains jours devant les tribunaux, puisqu'il comparaît tout comme Bernard Laporte et Serge Simon, président et vice-président de la Fédération française du rugby, devant le tribunal correctionnel de Paris pour 3 délits financiers, recel d'abus de confiance, abus de biens sociaux et travail dissimulé par dissimulation d'activité.
Merci Dimitri Vernet. Tenez, j'ai une question sport pour vous, Dimitri. Dimitri, nous, qu'est-ce que vous faites ?
2 dans la même pièce, c'est rare.
Exactement.
Hein.
Est-ce que vous faites un petit peu de course à pied ?
Oh, j'ai eu fait.
Ouais. J'ai fait.
Combien de kilomètres, allez ?
Bon, 5-10 kilomètres.
Oui, toi,
bon, je peux vous dire que c'est un peu nul par rapport à l'histoire que je vais vous raconter.
Ah oui.
Une goutte d'eau même par rapport à l'exploit que s'apprête à réaliser une Française aujourd'hui. Marie Léauté, 45 ans, termine son tour du monde, tenez-vous bien, en 698 marathons.
Wow.
Et vous avez bien entendu, plus de 800 jours de course, 16 paires de chaussures. Elle arrive aujourd'hui à Sydney, en Australie. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire,
un petit peu
d'entraînement.
Les marathons, le plus dur, c'est le premier. Après,
oui, bien sûr, le premier, 698, quel... voilà.
Eh bien, dis donc, bonne chance. 16 paires de chaussures.
Oui, c'est ça,
en plus de deux ans
de course.
Ouais, autant que le stylo Waterman pour Vincent Hervouette, qui est en train de finaliser sa chronique. Vous parliez de Kherson, il va nous en parler
rapporteur.
Dans un instant. Merci Roman, à tout à l'heure à 9h. Donc, l'édito international arrive dans un instant. La double page culture aussi, avec le livre du jour de Nicolas Caro. Et un jeu vidéo pour vous glisser dans le pelage d'un chat errant. Et oui, il y a des jeux vidéo sur à peu près tout. 7h39.
7h, 9h,
Europe Matin.
Il est 7h42, l'essentiel de l'actualité, Alban Le Prince.
Elisabeth Borne à l'hippodrome de Longchamp hier pour la rentrée du MEDEF. La première ministre a demandé aux patrons de réduire rapidement leur consommation d'énergie de 10%, ainsi qu'un plan de sobriété pour le mois prochain. Emmanuel Macron présidera par ailleurs un conseil de défense sur le sujet vendredi matin. À Mulhouse, l'homme qui a menacé de mort et tiré au fusil à billes sur un docteur de SOS Médecins en visite samedi a été condamné hier. Il a écopé d'une peine de 5 ans de prison avec mandat de dépôt. L'agresseur, âgé de 32 ans, avait déjà été condamné à 10 ans de prison pour viol sur conjoint et agression sexuelle sur mineur. À deux jours de la rentrée scolaire, on le sait, le prix de la cantine va grimper dans de nombreuses villes en raison de l'inflation. Eh bien, ce ne sera pas le cas à Paris. Dans la capitale, le prix des repas variera toujours de 13 centimes à 7 euros.
Europe Matin. Dimitri Pavlenko.
Dans un instant sur Europe 1, la page culture, Nicolas Carreau, Caroline Speller ce matin. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Nicolas, avec vous dans un instant, un livre qui raconte l'affaire Papin. C'est un double assassinat au Mans dans les années 30. C'est absolument sordide. Mm-hmm. Et puis Caroline, vous allez nous parler d'un jeu vidéo pour devenir un chat de gouttière.
Oui.
Voilà.
C'est ça, miaou.
Merci Jean, notre réalisateur. Mais d'abord, Vincent Hervouette. Le générique. Pour la guerre en Ukraine ce matin, mon cher Vincent, bonjour. Pour la guerre en Ukraine, c'est aussi la rentrée.
Oui, sur le front militaire avec une percée ukrainienne au sud qui peut constituer un tournant dans le conflit, on va y revenir. Et puis aussi la rentrée sur le plan diplomatique avec la réunion ce matin des ministres européens des Affaires étrangères, palabre en vue pour savoir s'il faut ou non priver les Russes de visas de tourisme. Au début de l'invasion, seuls les oligarques étaient traités comme des proches de Poutine, comme ses amis, ses complices. Puis les apparatchiks, tous ennemis du peuple. Et désormais, ce sont les Russes anonymes que l'Europe envisage de déclarer personne non grata. La Pologne, les Tchèques, les Baltes le veulent, l'Ukraine l'exige, la Commission hésite. Il y a quand même des diplomates qui se disent que ce n'est pas une si bonne idée que ça de claquer la porte au nez tout un peuple, notamment de ceux qui pourraient être tentés par l'exil. Accessoirement, ça fait le jeu de la propagande du Kremlin.
Alors il se trouve que les palabres vont durer pendant deux jours.
Oui, et on sait d'avance comment va se boucler la synthèse entre l'Est et l'Ouest, entre les va-t-en-guerre qui veulent infliger une défaite symbolique au Kremlin et ceux qui renâclent à couper les ponts avec le voisin. Une Pentecôte soudaine va frapper les délégations après des heures fiévreuses. Elles réaliseront qu'il n'y a plus beaucoup de touristes russes sur les Champs-Élysées et pour cause, il n'y a plus d'avions, plus de devises. Les ministres vont donc décider de ne rien décider en attendant le prochain sommet. Mais il ne faut pas s'y tromper. Plus le conflit s'enlise, plus l'unité des Européens est mise à l'épreuve et l'heure de vérité va sonner quand l'hiver sera venu et qu'il faudra se priver de courant pour laisser tourner les usines des pays voisins.
La solidarité européenne mise à l'épreuve donc dans d'ici quelques temps. Le front militaire mais aussi se réveille avec l'offensive que vient de lancer l'armée ukrainienne du côté de Kherson.
Alors c'est la ville au nord de la Crimée, juste au débouché de la péninsule. C'est la tête de pont du dispositif russe. Elle a été conquise au premier jour de la guerre. Son importance est stratégique. Les Russes ont besoin de Kherson s'ils veulent un jour pousser vers Odessa. Ils ont eu 6 mois pour se retrancher et ils tiennent les environs, ce qui représente à peu près la taille d'un département français. La ligne de front fait au moins une centaine de kilomètres. Et en face, les Ukrainiens jurent depuis le printemps qu'ils vont les déloger, les rejeter de l'autre côté du fleuve. Ces dernières semaines, ils ont bombardé les ponts sur le Dniepr par lesquels les Russes font passer les munitions, notamment les obus venus de Crimée. Les lance-missiles HIMARS livrés par les Américains ont tapé dans le mille et l'assaut auquel plus personne ne croyait a donc commencé hier à l'aube. Kiev a rapidement annoncé que les premières lignes de défense russes avaient été enfoncées. Moscou prétend le contraire. Personne n'est allé vérifier, mais c'en est en tout cas fini de la guerre d'usure qui a duré tout l'été. Une bataille décisive vient de commencer. Jusqu'ici, les Russes n'ont jamais abandonné un terrain conquis. C'est à Kherson que l'heure de vérité sur le plan militaire va sans doute sonner.
Voilà, il faut que les choses bougent avant l'arrivée de l'hiver. Hein. C'est ça un peu l'échéance que tout le monde craint, le général hiver. Merci Vincent Hervouette. La guerre en Ukraine que vous nous faites vivre depuis son début avec votre regard et votre expérience de la diplomatie. Bonne journée à vous. Mais restez là, parce qu'on va parler culture. J'ai une petite lecture à vous proposer, Nicolas Carreau. Qu'est-ce que vous... c'est du Welbeck. Je vous le lis avant ou après?
Allez-y.
Ça tombe bien parce que ça parle du besoin de fiction. C'est ce matin dans les colonnes du Figaro. Je vous en lis un très court extrait parce que le texte est un peu long. Michel Welbeck dit la chose suivante. La littérature, ça ne contribue nullement à l'augmentation des connaissances, pas davantage au progrès moral humain. En revanche, elle contribue de manière, la littérature, de manière significative au bien-être humain, et ça d'une manière à laquelle ne peut prétendre aucun autre art. La fiction pour l'homme n'est pas seulement un plaisir, c'est un besoin. Il a besoin d'autres vies différentes de la sienne, simplement parce que la sienne ne lui suffit pas. Ces autres vies n'ont pas forcément besoin d'être intéressantes. La seule chose importante, c'est qu'elles soient autres. Et il finit en parlant du virtuel, des métavers qui prétendent concurrencer la réalité. Tout ça, c'est du flan, nous dit Michel Houellebecq. Voilà, lisez ça, c'était dans le Figaro ce matin, c'est absolument magnifique. Allez, justement, parlons littérature, parlons... Non, c'est même pas une fiction, Nicolas Caro, dont vous nous parlez ce matin. C'est l'un des romans de la rentrée littéraire, ça s'appelle Par-delà l'attente, Cécile et Julia Minkowski, ça explore un fait divers.
Un fait divers célèbre et terrible. Le double crime des sœurs Papin. Ça se passe au Mans. En 1933, Christine et Léa Papin sont deux bonnes dans une maison bourgeoise. Rien à signaler de particulier. Pourtant, un jour, dans des circonstances assez floues, elles tuent sauvagement leur patronne, Léonie Lancelin, et sa fille Geneviève. Quand je dis sauvagement, c'était hardcore. Les deux femmes ont été rouées de coups, poignardées, martelées, donc avec un marteau, et les deux servantes ont arraché les yeux de leurs victimes.
Alors, il faut savoir qu'à l'époque, l'affaire a fait énormément de bruit.
Absolument. Avec deux camps dans l'opinion publique, ceux qui réclamaient la mort des deux accusés et ceux qui y voyaient un symptôme de la lutte des classes, une vengeance contre l'humiliation. Beaucoup de presse à l'époque et aujourd'hui encore, on en parle. Il y a quelques années, vous vous souvenez peut-être, Sylvie Testu avait joué le rôle de Christine Papin dans Les blessures assassines.
Alors, le roman raconte ce fait divers, cette histoire ?
C'est beaucoup plus, en fait. Ce qu'on oublie dans cette affaire, c'est que l'avocat était une femme. Germaine Brière, l'auteur Julia Minkowski, elle-même avocate, est tombée dessus en faisant des recherches.
Je me suis posé la question de savoir si une femme avait déjà accompagné son client à l'échafaud. C'est comme ça que j'ai rencontré Germaine Brière, ce personnage au destin hors du commun. J'ai appris qu'elle avait été l'avocate des sœurs Papin, qui est évidemment, comme toute personne friande de faits divers, une affaire que je connaissais bien, une affaire qui provoque une certaine fascination. Mais ce n'est pas l'affaire qui m'a donné envie d'écrire, c'est évidemment le personnage de Germaine.
Voilà, et c'est donc sur elle, le roman ?
Exactement, sur Germaine Brière, elle vient de terminer sa plaidoirie, elle a plaidé la folie, et maintenant elle attend le verdict, bien sûr, et elle se remémore l'affaire et sa stratégie de défense, mais aussi sa vie. Comment elle est devenue avocate ? Je peux vous dire comment, en 1933, une femme avocate, ça ne court pas les palais de justice. Germaine Brière, par exemple, a dû fournir à l'époque un certificat de virginité pour prouver sa bonne moralité. On suit aussi ses histoires d'amour et ses affaires. Il n'y a pas seulement les sœurs Papin. Germaine Brière, Julia Minkowski en parlait, a accompagné un condamné à mort à l'échafaud, l'un de ses clients. On assiste à ce dernier moment. La scène est incroyable. Il n'y a pas que l'affaire des sœurs Papin. Donc, mais c'est quand même le fil rouge. C'est le cœur de l'intrigue et c'est fascinant. Alors moi, je connaissais le fait divers, mais je ne me rappelais plus de la fin. Je ne suis pas allé voir sur Internet pendant la lecture. Je vous conseille de faire pareil. Ensuite, en revanche, j'ai passé une heure à regarder les photos d'époque, les photos du procès. C'est complètement fou, cette histoire. Et ce roman, c'est aussi le portrait d'une époque, d'une certaine France et de la justice dans les années 30. Un roman court, c'est de la fiction, hein, à partir du réel, mais elle en fait de la fiction. Elle invente beaucoup de choses, bien sûr, pour rejoindre Houellebecq.
Avec Houellebecq, ouais.
215 pages seulement, pourtant on y trouve tout un monde. C'est aussi le pouvoir de la fiction.
Voilà, Par-delà l'attente, signé Julia Minkowski, c'est chez Lattès et c'est fait partie de la rentrée littéraire. Merci Nicolas Caro. Restez là, art majeur, la littérature, art mineur, mais pour combien de temps ? Les jeux vidéo. Caroline Speller, alors on connaît, il y avait un jeu qui s'appelait Goat Simulator, on jouait à un simulateur de chèvre. Voici donc un jeu vidéo dans lequel cette fois on incarne un chat de gouttière et ce jeu est considéré comme une des pépites de l'été.
Bah, on le sait, les chats sont les rois d'Internet et comme si cela ne leur suffisait pas, ils sont maintenant les stars de nos consoles grâce au studio français indépendant Blue 12 avec son jeu d'aventure Stray. Stray, c'est l'histoire d'un chat roi. Charou, perdu, qui doit explorer une cité en ruine ici. Pas d'humains, les habitants sont des robots humanoïdes. Alors, pour retrouver les siens, le chat n'a qu'une solution, s'allier à un drone qui lui sert de guide et d'interprète. Bah oui, parce qu'un chat, bah, ça miaule, hein.
Qu'est-ce qu'il fait le chat, là ?
Bah, il est dans cette cité un peu perdue et il essaie de retrouver les siens. Alors, ce qui frappe dans Stray, c'est sa direction artistique hypnotisante. À la hauteur des yeux du chat, on traverse des environnements où la nature a repris ses droits, ou encore des villes à l'architecture verticale éclairée seulement par des néons. On y voit clairement une inspiration au film Blade Runner et à Kowloon, la citadelle disparue hongkongaise.
Alors, au-delà de la direction artistique du jeu, pourquoi est-ce qu'il a autant de succès auprès des joueurs?
Parce qu'on incarne un chat hyper réaliste dans une expérience immersive, avec l'agilité et la sournoiserie d'un félin. On alterne entre observation et énigme à résoudre, donc on joue avec l'environnement. On se faufile dans les bas-fonds, dans les appartements, on saute pour atteindre les toits, on gratte aux portes, on pousse des objets avec notre petite papatte, et bien sûr, on miaule et on fait ses griffes là où il ne faudrait pas.
Alors ce jeu, il est destiné à qui? Comment, où est-ce qu'on le trouve? Sur quelle plateforme?
Aux amoureux des chats, évidemment, mais aussi à ceux qui veulent vivre une aventure de 7-8 heures, facile à prendre en main, car ici, pas de score au besoin de dextérité. Avec Stray, on ronronne sur notre canapé. Le jeu est disponible en téléchargement sur PC, PS4 et PS5 pour 30€. Le jeu sera aussi disponible en magasin le 20 septembre prochain pour 40€. Mais attention, petit bonus, pour la version PC, la SPA profite de l'engouement du jeu pour sensibiliser les joueurs à l'adoption des animaux abandonnés. Alors l'association propose sur son site internet officiel de télécharger un fichier pour remplacer le héros de base de Stray pour un chat adopté dans les refuges de l'association. Et ça, c'est une chouette inspiration, c'est une chouette proposition.
Mais je suis allé le voir, le jeu, en fait, ça a l'air tellement bien d'être un chat errant. Faut-il les adopter? C'est la question que pose ce jeu, finalement. Non, je vais peut-être un peu loin. Merci Caroline Speller.
Merci.
Merci Nicolas Caro. Merci à Dimitri. Tous les deux. On se retrouve demain, 7h53.
Europe Matin.
L'essentiel de l'actualité, Alban Le Prince.
Emmanuel Macron présidera vendredi matin un conseil de défense consacré à la crise énergétique. Il sera entouré d'Elisabeth Borne, la première ministre, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, et sa collègue de la transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. L'Ukraine est en train de reprendre ce qui est à elle, les mots de Volodymyr Zelensky, alors que Kiev a lancé une contre-offensive hier pour reprendre la ville de Kherson. Et puis au Pakistan, un tiers du pays est sous les eaux, déclaration hier du ministre du changement climatique. Le pays est confronté aux pires pluies de mousson depuis 30 ans. Le bilan fait état de plus de 1100 morts.
Dimitri Pavlenko, votre matinale info sur Europe 1.
L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Alexis Brézet.
Bonjour Dimitri.
Directeur de la rédaction du Figaro, votre journal publie ce matin de larges éléments d'une étude inédite réalisée par la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique, dirigée par Dominique Régnier. Cette étude porte sur les résultats électoraux de 2022. Mais qu'est-ce qu'on peut bien encore trouver à dire sur les élections de 2022? Tout a été dit et redit, Alexis.
Oui, c'est vrai, bien des choses ont été dites. Et d'ailleurs un certain nombre de sottises. Mais enfin, moi, il me semble surtout que bien des choses ont déjà été oubliées, parce qu'en matière politique, nous avons souvent une mémoire de poisson rouge. Et c'est justement le grand mérite de cette étude, réalisée donc par les chercheurs de la Fondapol et les sondeurs d'Opinionway, que de nous rafraîchir la mémoire et de nous rappeler un certain nombre de réalités qui devraient nous crever les yeux et que trop souvent nous nous obstinons à ne pas voir.
Alors de quelle réalité voulez-vous parler?
Pour résumer les choses, je dirais un mot, colère. Une colère qui vient de loin. Une colère brutale, une colère massive, une colère que les Français ont exprimée à la présidentielle et encore plus aux législatives à travers ces fameux votes dits protestataires, mais aussi à travers une abstention record qui ne doit rien au hasard. Voyez que 9 électeurs sur 10 qui se sont abstenus ne regrettent pas de ne pas avoir voté. Et ils le disent, c'est pas par négligence ou désintérêt qu'ils sont pas allés aux urnes. Ils se sont abstenus pour manifester leur défiance et leur mécontentement. Et donc, si l'on ajoute à ces abstentionnistes en colère les électeurs qui ont voté, certes, mais qui ont choisi le RN, Reconquête ou la NUP, on arrive à un total de ce que la Fondapol baptise la protestation électorale, un total sidérant, hein, il est de 77%. Il faut bien méditer ce chiffre, Dimitri.
77%.
Oui, 77%
du corps
Français,
électoral. Hein.
Voilà. Ça, qui ont, soit qui sont abstenus, soit qui ont voté pour les partis dits protestataires.
Wow.
Ça veut dire que 77% des Français sont mécontents du système tel qu'il s'organise aujourd'hui autour des partis dits de gouvernement. C'est absolument vertigineux. C'est le signe d'une très grande fragilité démocratique. Et on comprend que nos gouvernants s'inquiètent. On l'a vu hier avec les Gilets jaunes. On peut le voir demain avec à peu près n'importe quoi. Mmh. En vérité, nous vivons sur un volcan.
Ouais, c'est pas très réjouissant tout ça. L'autre leçon que l'on peut tirer de cette étude de la Fondapol, puisqu'il y a deux leçons, est-ce qu'elle est plus réjouissante?
Ça, je ne sais pas. Ça, ouais. Est réjouissant, ça dépend pour qui. C'est une affaire de goût, vous allez me le dire. En tout cas, le constat, il est sans équivoque. Et il décevra tous ceux qui n'ont Dieu et d'oreille que pour les imprécations et les éructations de Jean-Luc Mélenchon. En vérité, nous dit la Fondapol, la France n'a jamais été aussi à droite. Elle est même à plus de 57% d'après les estimations de l'Institut. Et cette droitisation, ben on la lit dans les scores du RN, dont les thèmes progressent fortement dans l'opinion. Mais elle se lit aussi, c'est plus nouveau, du côté de chez Macron, dont les électeurs, nous apprend toujours cette étude, qu'ils se situent non plus, comme autrefois, au centre ou à gauche, mais désormais, pour les deux tiers d'entre eux, franchement à droite. Alors ça, c'est nouveau, et ça pose un énorme problème à la droite classique. Sur le papier, elle devrait se réjouir, mais dans la réalité, elle est bien embêtée. Elle est coincée entre un macronisme qui se droitise et un lepénisme en voie de respectabilisation. Elle va devoir sacrément jouer des coudes si elle veut reconquérir cet espace politique qu'elle a abandonné à force de grands renoncements et de petites lâchetés.
Merci beaucoup Alexis Brézet. Tous les détails de l'étude Fondapol à retrouver évidemment sur le site de la Fondapol, mais aussi ce matin donc dans les pages 2 et 3 du Figaro. Merci Alexis. 7h57.
C'était l'édito politique avec le portail entreprise SNCF. Pour la réservation de vos billets, le portail entreprise SNCF, le site 100% dédié aux entreprises.
C'est la question relative aux élections également. Les islamistes ont-ils pesé sur la présidentielle? Eh bien oui, répond une note du renseignement territorial que s'est procuré Europe 1. Révélation dans le journal de 8h. On en parlera aussi avec Fabien Roussel, le député du Nord et secrétaire national du Parti communiste. Il est à 8h13, l'invité de Sonia Mabrouk. Le journal dans un instant. Nous sommes le mardi 30 août, il est pile 8h.
7h-9h.
Europe Matin.
Dimitri Pavlenko.
Et à la une ce matin, la présidentielle. Cette question ce matin sur Europe 1. Les musulmans de France qui ont voté Jean-Luc Mélenchon ont-ils été influencés par les islamistes? On vous dévoile dans un instant et en exclusivité une note des renseignements territoriaux. Pas encore lancée, déjà du plomb dans l'aile. Le Conseil national de la refondation, le CNR, verra-t-il le jour le 8 septembre prochain, comme le souhaite Emmanuel Macron? Pour Gérard Larcher, président du Sénat et plusieurs partis d'opposition, hors de question d'y participer. Pas question d'affaiblir les assemblées. Et puis un nouveau casse-tête pour les entreprises. Beaucoup de patrons ne savent plus comment faire pour recruter des cadres. La raison, ils sont de plus en plus exigeants sur les salaires et les conditions de travail. À 8h13, votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, bonjour.
Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Notre invité, il est très remonté ce matin. Fabien Roussel nous parlera de la menace du rationnement, de l'explosion des prix de l'électricité, des super profits. Et il sera même question, Dimitri, de barbecue, et oui, une bonne viande de bon matin, peut-être un peu trop viril au goût de Sandrine Rousseau, à voir.
À tout à l'heure. Le journal vous est apporté par Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est un rapport explosif qu'on vous dévoile ce matin sur Europe 1. Une note du renseignement territorial qui nous ramène près de 4 mois en arrière. Au 10 avril dernier, lors du premier tour de la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon arrive 3e avec près de 22% des suffrages. 7 musulmans sur 10 lui ont accordé leur voix. Une tendance qui a interpellé le renseignement territorial. Bonjour William Molinier.
Bonjour Fanny.
Journaliste au service police-justice d'Europe 1 en direct avec nous. William, cette note, vous l'avez consultée en exclusivité pour Europe 1. Ce qu'elle révèle, c'est que des islamistes radicaux, dont les frères musulmans, ont encouragé à voter Mélenchon.
Oui, ils ont clairement tenté de peser dans la campagne. Des mots écrits noir sur blanc dans cette note confidentielle du renseignement territorial qui a été transmise jusqu'à l'Élysée. Le vote des islamistes s'est porté sur Jean-Luc Mélenchon qui, selon les policiers, s'est attiré les faveurs de nombreux influenceurs communautaristes. En atteste un communiqué anonyme, non signé, qui a tourné sur les réseaux sociaux la veille du premier tour de l'élection présidentielle. Il a été relayé par des prédicateurs fréristes, suivis de près par les services de renseignement. Parmi eux, l'imam Hani Ramadan, l'un des frères de Tariq Ramadan. Dans ce communiqué, il considère Jean-Luc Mélenchon comme, ce sont leurs mots, le moins mauvais des candidats.
Ce qui ressort aussi de cette note, William, c'est que la candidature d'Éric Zemmour, d'une certaine manière, a boosté le vote Mélenchon.
Oui, parce que pendant toute la campagne, les islamistes ont agité le foulard de l'islamophobie supposée de l'État, comme avec cette grille d'évaluation du collectif contre l'islamophobie qui a depuis été dissous et qui plaçait Jean-Luc Mélenchon comme le seul candidat fidèle à la laïcité. Or, si cette parole rigoriste a percé jusque chez les plus modérés, c'est en partie grâce à la candidature d'Éric Zemmour que les policiers qualifient d'allié aussi providentielle qu'involontaire, perçue comme ouvertement hostile à l'islam et qui donc aurait suscité une vive inquiétude parmi les fidèles. Reste que le renseignement français n'entrevoit pas d'alliance durable entre les islamistes et la NUPES, cette dernière étant considérée par les premiers comme toujours trop républicaine.
Merci William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Les électeurs musulmans ont-ils véritablement été influencés par des islamistes? Comment réagissent-ils au contenu de cette note du renseignement territorial? Clément Barguin, vous vous êtes rendu à la grande mosquée de Créteil dans le Val-de-Marne pour leur poser la question.
Alors le premier réflexe des fidèles a été de refuser tout enregistrement de peur que leurs propos ne soient déformés. Hors micro, j'ai tout de même pu m'entretenir avec de nombreux pratiquants. Parmi eux, beaucoup admettent avoir voté pour Jean-Luc Mélenchon dès le premier tour de l'élection présidentielle. D'abord m'ont-ils confié parce que c'était selon eux le candidat qui stigmatisait le moins la communauté musulmane, parce qu'il n'est pas opposé au port du voile dans l'espace public et selon eux qu'il défend les classes populaires les plus défavorisées. Ce qui ressort donc de mes échanges avec les membres de cette communauté musulmane de Créteil, c'est qu'il y a eu pour eux un véritable engouement autour du candidat insoumis pendant la campagne présidentielle. Est-ce qu'il s'y est ajouté une influence de la part de prédicateurs ou d'imams proches des frères musulmans? Difficile à dire, les personnes avec qui j'ai pu échanger m'ont tout affirmé qu'elles n'avaient aucun lien, ni de près ni de loin, avec l'islam radical.
Clément Barguin.
Il est 8h05 sur Europe 1. Faut-il créer une nouvelle instance pour débattre des grands sujets de la nation? Emmanuel Macron l'a promis lors de l'élection présidentielle. Le Conseil national de la refondation doit être porté sur les fonts baptismaux le 8 septembre.
Oui, plus facile à dire qu'à faire, hein, visiblement. Ce CNR n'est pas encore lancé, qu'il est déjà boudé. Un certain nombre d'élus, dont le troisième personnage de l'État, ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne joueraient pas le jeu, Alexis de la Fontaine.
Oui, Gérard Larcher a jeté un pavé dans la mare en refusant totalement de participer à ce rassemblement. Le président du Sénat accuse Emmanuel Macron de vouloir contourner le Parlement avec cette nouvelle assemblée. Mais Gérard Larcher n'est pas seul, en dehors de la majorité, à droite comme à gauche, personne ne veut participer au Conseil national de la refondation, comme Jean-Philippe Tanguy, député du Rassemblement national.
Tout simplement parce que c'est une mascarade. Le président de la République, il est garant des institutions. Et le lieu pour discuter des sujets que le président souhaite aborder, c'est le Parlement. Il n'y a aucune raison en fait, de créer une espèce de nouveau machin qui va être en surplus de ce qui existe déjà.
Les élus locaux sont également très sceptiques devant le manque de concertation et d'organisation à 10 jours seulement de l'événement. Alors les associations des régions, départements et maires de France feront le strict minimum, tandis que certaines n'ont même pas été conviées. De son côté, l'Élysée ne souhaite pas rentrer dans les polémiques et précise ne pas connaître la liste définitive des invités.
Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Notez par ailleurs que dans le contexte actuel de crise énergétique, Emmanuel Macron présidera vendredi matin un conseil de défense consacré à l'approvisionnement en gaz et en électricité en vue de l'hiver prochain.
La crise énergétique, la crise économique, le Covid, autant de paramètres qui perturbent le marché de l'emploi et notamment le recrutement des cadres.
84% des patrons craignent d'avoir encore plus de mal à embaucher dans les mois à venir. C'est ce que révèle le baromètre de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. Car les candidats sont de plus en plus exigeants, salaires, conditions de travail, les entreprises doivent redoubler d'efforts pour les séduire, Margot Faudéré.
Pour remplacer le directeur de son usine de matériaux, Laurent Kopp a dû s'armer de patience et utiliser toute une palette d'arguments. Il a mis plusieurs mois à trouver un cadre prêt à déménager dans le Val-de-Loire.
Ça faisait à peu près un an que je cherchais quelqu'un. Pour faire venir cette personne, nous avons mis en avant les avantages salariaux, c'est-à-dire l'intéressement, les chèques vacances, le 13e mois, le PRP, mais aussi la prime Macron. Nous avons aussi laissé la possibilité à ce cadre de haut niveau de pouvoir travailler de temps en temps en télétravail. On ne l'oblige plus à être en permanence sur son lieu de travail.
Comme Laurent Kopp, des milliers d'entreprises peinent à recruter des cadres particulièrement exigeants avant d'accepter une offre d'embauche. Louis a démissionné en avril dernier d'une société du digital avec un objectif en tête, trouver un emploi plus stimulant et plus flexible.
J'ai voulu me tourner vers une autre entreprise pour aller chercher quelque chose de nouveau, qui allait me relancer intellectuellement, accompagner des conditions de travail avec le télétravail, la proximité des bureaux et un ensemble d'autres conditions qui rendent le travail optimal.
Malgré ces critères très précis, Louis a signé un nouveau contrat en moins de 2 mois car pour attirer ses profils qualifiés, les entreprises sont prêtes à faire monter les enchères. Alors qu'elle quittait un poste bien rémunéré dans une étude notariale, Sandra a eu des offres encore plus séduisantes.
J'ai eu des opportunités de travailler dans la même branche d'activité avec des salaires plus élevés. J'aurais pu recommencer à travailler dans une autre étude en fait.
Mais elle a préféré s'installer en libéral pour travailler selon ses propres conditions. 2 millions de Français ont choisi le statut d'auto-entrepreneur pour les mêmes raisons.
Margot Faudéré.
La guerre en Ukraine et une contre-attaque ukrainienne en cours dans le sud du pays.
Objectif, reprendre la ville de Kherson, tombée aux mains des Russes dès le début du conflit. Les forces ukrainiennes ont annoncé des succès ponctuels. Les Russes assurent leur avoir infligé de lourdes pertes.
Voilà un conflit dont les conséquences sont mondiales et qui transparaît même. Ce n'est pas banal, hein, dans un film d'animation, les nouvelles aventures de Gulliver.
A priori, dessin animé tout simple, tout mignon au pays des Lilliputiens, sauf que parmi les producteurs de ce film, il y a un certain Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, ancien comédien, avait lancé ce projet il y a 15 ans. Mais à la lumière de la guerre en Ukraine, cette fiction prend des airs d'outils de propagande politique, Marie Jiquel.
Dans cet épisode très connu des aventures de Gulliver, les Lilliputiens parviennent à repousser, malgré leurs 15 cm de hauteur, leurs envahisseurs. Morale de l'histoire, il est possible de réaliser de grandes choses, même en étant petit. Et forcément, ça résonne avec l'actualité. Maxime Bosloff, du studio d'animation 95, a travaillé sur le film.
C'est la même chose que ce que l'on voit dans notre vie. Mais à l'origine, bien sûr, lorsque nous l'avons créé, personne ne pensait à une possible guerre entre la Russie et l'Ukraine.
Distribué dans 70 pays, le dessin animé s'avère un excellent outil de communication, selon Gallagher Fenwick, biographe du président Zelensky.
L'équipe communique beaucoup sur la présence de Zelensky au sein du projet. Le fait de faire sortir à l'international, de faire reverser les recettes à des œuvres caritatives, ça va forcément être un coup de pub qui va très vraisemblablement marcher.
Coloré, dynamique et un brin humoristique, ce Gulliver, tant rêvé par Zelensky, devient le film d'animation ukrainien le plus diffusé à l'étranger.
À découvrir dès aujourd'hui, Marie Jiquel.
Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal. Dans un instant, Fabien Roussel, le député du Nord et secrétaire national du Parti communiste, est l'invité de Sonia Mabrouk. À tout de suite.
Europe 1.
Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, qui est députée du Nord et secrétaire nationale du Parti communiste.
Bienvenue ce matin sur Europe 1 et bonjour Fabien Roussel.
Bonjour à vous, bonjour Sonia Mabrouk.
Est-ce que vous aussi, vous vous y préparez ?
À quoi donc ?
Au rationnement. Elisabeth Borne, hier devant le MEDEF, a agité le spectre du rationnement. Si on ne va pas, Fabien Roussel, vers une plus grande sobriété énergétique à titre individuel et au niveau des entreprises, est-ce qu'elle a raison de menacer ou est-ce qu'elle noircit le tableau ?
Le gouvernement, le président de la République ont fait le choix d'utiliser des mots durs et on a même le sentiment qu'il y a une impréparation totale de la part du gouvernement qui nous parle aujourd'hui de rationnement, qui nous parle avec des termes très provocateurs de la part du président de « c'est fini l'abondance et l'insouciance », mettant à la disette les Français d'ailleurs comme les entreprises, alors qu'on ne découvre pas quand même les conséquences du dérèglement climatique, cette crise de l'énergie liée en partie par la guerre en Ukraine. Et donc, c'est toujours au même à qui on demande des efforts. Oui, il y a des efforts à faire. Oui, les Français en font beaucoup. Oui, les petites entreprises en font elles aussi beaucoup. Et il y a même des grosses entreprises qui souffrent aujourd'hui de ce qui se passe, de la hausse des prix de l'énergie. Je pense à Arc International dans le Pas-de-Calais chez moi, qui produit du verre de grande qualité et essentiellement avec des fours qui fonctionnent au gaz. Mais on ne s'attaque pas au fond, on ne s'attaque pas à la spéculation, on ne s'attaque pas aux grandes entreprises qui réalisent des super profits, on ne s'attaque pas aux compagnies pétrolières qui n'ont jamais gagné autant d'argent et qui spéculent, et on ne s'attaque pas au marché européen de l'énergie qui fait de la spéculation sur le prix de l'énergie.
Parlons-en, parce que vous proposez, Fabien Roussel, on va prendre les choses dans l'ordre, de sortir du système tarifaire européen d'électricité, un peu à l'image de ce que fait l'Espagne et le Portugal. Vous pensez que la France doit suivre ? Vous êtes sûr que leur situation est enviable à ces pays ?
D'abord, je pense que cette question énergétique, elle est effectivement fondamentale, prioritaire en cette rentrée, d'abord parce que les Français payent de plus en plus cher leur facture d'électricité et de gaz. Je pense à ces Français qui ont changé leur cuve à fioul et qui se sont mis un poêle à peler, par exemple. Même eux souffrent du prix des palettes qui ont augmenté de 3 à 4 fois.
Mais personne ne nie cela. Mais est-ce que vous reconnaissez...
Donc c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Mais c'est un vrai sujet très politique, parce que quand même, si on en est là aujourd'hui, c'est à cause d'une déréglementation totale du marché de l'énergie qui fait suite à la privatisation d'EDF-GDF, qui fait suite à la libéralisation des prix de l'énergie sur le marché européen et qui fait que le prix de l'énergie est fixé en fonction du prix du gaz et que les traders se frottent les mains.
Donc on sort momentanément de ce marché ?
L'électricité, l'énergie est un bien commun. On en a besoin pour chauffer son foyer, pour apporter de la chaleur à son bébé qui vient de naître, pour les personnes âgées. On en a besoin, c'est un bien commun. Or, aujourd'hui, on spécule avec l'énergie. On joue en bourse le prix de l'énergie. Et la réaction du gouvernement, c'est de dire, baissez le chauffage, faites des efforts.
Pardonnez-moi, n'êtes-vous pas un poil caricatural ? Est-ce qu'il n'y a pas eu un bouclier tarifaire ? Quand vous regardez ailleurs en Europe, Fabien Roussel, est-ce que les chiffres, pardonnez-moi, ne sont pas têtus ? Est-ce que la France n'est pas finalement assez bien lotie, malgré la souffrance de beaucoup de nos concitoyens par rapport à l'explosion des prix aujourd'hui ?
Mais la France a fait le choix d'un bouclier tarifaire. Nous proposions de baisser la TVA. Qui pèse fortement sur les prix du gaz, de l'électricité et de l'essence. Ce gouvernement ne s'attaque pas à la spéculation, ne retrouve pas la maîtrise de la production et de la tarification de l'énergie. Si aujourd'hui 50% du parc nucléaire est à l'arrêt, c'est faute d'investissement ces dernières années. On doit donc bien s'attaquer à cette question de la production, d'une maîtrise publique de la production. Quand je dis publique, c'est parce que ce n'est pas le marché qui doit décider du coût de l'énergie. Je vais même vous dire une chose, le gouvernement propose de réduire de 10% la consommation d'électricité des entreprises et demande aux Français de faire des efforts. Mais qu'en est-il des directives européennes qui imposent à la France de vendre de l'électricité, notamment nucléaire, à l'Allemagne, à l'Espagne, à l'Italie, là, à cet hiver ?
Attendez.
Est-ce que la vente d'énergie à ces pays va être revue à la baisse ? Je vois que des pays nordistes comme la Finlande ou la Suède, je crois, va revoir sa vente d'électricité issue des barrages hydrauliques parce qu'ils sont en panne sèche.
Donc pour vous, Fabien Roussel, si je vous entends bien, tous ces efforts qui sont demandés, y compris aux entreprises et à nous-mêmes à titre individuel, cette écologie des petits gestes ne sert à rien si on ne revoit pas d'au fond en compte du système.
Non, je ne dis pas ça, parce que les Français font beaucoup d'efforts, sont prêts à en faire beaucoup. Nous devons en faire. Nous sommes dans le dérèglement climatique.
Mais pardonnez-moi, nous devons en faire. Si la France est demain écologiquement vertueuse, à quoi ça sert ? Si la Chine et l'Inde continuent de polluer ainsi, en particulier la Chine ?
Mais chacun doit faire des efforts à son niveau. Et en fonction de la taille du pays, en fonction de la taille du foyer, en fonction de sa propre consommation, les efforts seront plus ou moins importants. On ne peut pas dire et balayer d'un revers de main en disant « ce n'est pas mon affaire, je ne représente rien là-dedans ». Tout le monde doit prendre sa part. Or, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'on demande plus aux petits et peu aux gros. Je pense notamment à ceux qui polluent le plus aujourd'hui, et notamment les grandes fortunes, et toutes les études le montrent. C'est que les pollueurs, les plus grands pollueurs, ceux qui sont responsables de près de 40% des émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui, sont les 10% les plus riches sur la planète. Et c'est à nous, modestes citoyens, des classes populaires, des classes moyennes, à qui, encore une fois, on va demander les efforts. C'est comme pour les entreprises, on ne demande pas le même effort à un artisan.
Vous avez entendu Elisabeth Borne, elle n'a pas exclu il y a quelques jours la taxation des super-profits. J'imagine que cette idée vous ravit, mais dites-nous, Fabien Roussel, à part donner un gage, un scalp à la gauche, en quoi est-ce vraiment utile ? Est-ce que ce n'est pas un pansement sur une jambe de bois ?
C'est une des mesures, ça ne suffira pas, parce que taxer des super-profits, c'est bien, parce que ça fait rentrer dans les caisses des sous dans les caisses de l'État, parce que ça peut inciter une entreprise à investir plutôt qu'à distribuer des profits, mais si ça maintient un système d'exploitation de nos ressources ou des salariés, effectivement, ça ne change pas la donne. C'est bien la raison pour laquelle nous demandons aussi et en même temps à ce que les salariés dans l'entreprise participe au choix de gestion. Comment on répartit la richesse ? Comment on la crée, la richesse ? Comment on la crée, la richesse, en respectuant le vivant, l'être humain,
en produisant
la planète,
plus,
les ressources naturelles ?
À la fête de l'humain, vous avez dit qu'il faut produire
en
plus
produisant
en France.
Mieux et en produisant, oui, plus d'énergie. Nous allons avoir besoin, nous allons consommer plus d'énergie dans les années qui viennent si nous nous fixons l'objectif de réindustrialiser le pays et de faire revenir des usines chez nous pour produire, par exemple,
c'est ce que je souhaite, une voiture électrique populaire, pas chère, pour inciter, pour permettre aux gens de pouvoir se déplacer sans polluer. Mais nous allons devoir produire plus d'électricité pour répondre à tous ces produits qui vont fonctionner à l'électricité décarbonée plutôt qu'à l'essence.
Mais j'ai on fait vous d'autres... entend, attendez, vous dites, Fabien Roussel, vous l'avez dit à la fête de l'UMA, produire plus, y compris de l'énergie, mais vous, le communiste, est-ce que vous ne versez pas dans un productivisme échevelé? C'est ce que vous disent peut-être certains de vos camarades.
Ah, je suis, moi, pour un développement humain, harmonieux de notre pays, de notre société, qui nous permette de relever le défi climatique tout en travaillant à la prospérité du pays et des Français. J'ai fait une proposition, par exemple, et là, je pense aux entreprises, à Geoffroy Route-Bézieux, notamment, qui a parlé, dans les efforts qu'il faut faire, il a parlé des déplacements des salariés. Hein, parce que ça compte dans évidemment les efforts à faire. Et beaucoup peuvent emprunter la voiture pour se rendre au travail. Je fais une proposition, une bascule justement, qu'il faut faire quand il y a le feu à la maison. Je propose à ce que tous les salariés, mais aussi les retraités, les étudiants, les demandeurs d'emploi, élargissons, mais au moins les salariés, aient une carte de transport leur permettant d'accéder gratuitement au TER, au métro, au bus propre de notre pays. Soyons ambitieux, construisons une alternative à la voiture, partout là où c'est possible. Qu'est-ce que fait le gouvernement? Il maintient des tarifs élevés pour les transports en commun. Il supprime 19 RER là, à partir du 1er septembre. Le RERC, il va y avoir 19 RER en moins, y compris aux heures de pointe. Mais que vont faire les gens? Ils vont reprendre la voiture. Et ça va encore provoquer des embouteillages monstres. Et de l'agacement pour nos concitoyens.
Crise énergétique.
Et donc, soyons ambitieux si on veut relever
le
défi climatique.
Voilà pour votre proposition. Crise énergétique, crise écologique. Plus largement, jusqu'où faut-il aller? Êtes-vous d'accord, par exemple, avec vos partenaires verts qui veulent interdire parfois les piscines privées en cas de sécheresse, qui s'attaquent aux jets privés, qui veulent survivre jusque dans nos assiettes? Faut-il aller dans ce sens-là?
En matière de transport, vous l'avez entendu, les jets privés, c'est de l'ordre du symbolique. Ça représente 0,0004, je crois, % des émissions de gaz à effet de serre. Plutôt que de les interdire, et quoique certains trajets en jet privé pourraient être interdits entre nous. Hein, quand c'est pour aller faire ses courses ou faire un Londres-Londres comme a fait Bernard Arnault, il est resté 10 minutes dans les airs. Hein. S'envoyer en l'air pour 10 minutes au prix carbone, excusez-nous, ça
je
pourrait
vous
être interdit.
Je laisse mettre de votre expression.
Mais taxons-les. Ces jets privés. Beaucoup plus, ça fera rentrer des sous dans les caisses de l'État.
Vous avez d'autres propositions que des taxes, des taxes, monsieur Roussel, pour changer un peu de...
Justement, il faut réorienter l'argent et faire en sorte que les investissements, l'argent utile, la richesse utile, servent à notre pays. Et quand n'est pas utile, eh bien pour dissuader, peut-être qu'il faut taxer. Il faut mettre des critères. Voilà, l'utilisation de l'argent.
Nous ne sommes pas suffisamment taxés en France, vous avez raison.
Ah ben, jamais... Les riches, les grandes fortunes et les multinationales n'ont bénéficié d'autant de baisses d'impôts.
Mais pourquoi cette logique des boucs émissaires?
Et donc ce n'est pas une question de boucs émissaires. Regardez sur la spéculation. Pourquoi on ne s'attaque pas à la spéculation? La spéculation boursière, la spéculation engendrée par des grands groupes qui gagnent beaucoup d'argent aujourd'hui sur le dos de cette crise. CMA-CGM, le transporteur, qui a gagné 17 milliards d'euros là, cette dernière année, en profitant de la hausse des prix des containers. Ça se répercute sur les prix alimentaires.
Monsieur Roussel, il y a aussi une reprise. C'est normal de faire des profits quand il y a une reprise. Il faudrait peut-être même qu'on s'en félicite parfois.
Je vous laisse responsable de vos propos,
il y a pas de reprise.
Madame Mabrouk. Oui. Mais c'est normal de faire des profits en période de reprise. Dites ça aux Français à qui on demande de serrer la ceinture. Dites ça aux 12 millions de nos concitoyens qui sont en précarité énergétique, aux 10 millions qui vivent sous le seuil de pauvreté.
Pas de démagogie, je vous pose la question. Est-ce
démagogie.
Que les profits,
non, mais c'est normal de faire des profits quand c'est la guerre,
profiter.
Quand on a du mal à remplir son assiette. Non, mais dites donc, moi je suis pour une société de la coopération, du partage et de la solidarité au service de l'être humain, au service de l'émancipation humaine. Et c'est à ça que nous devons tous travailler collectivement. Dans le top 10 des grandes fortunes de notre pays, on trouve des transporteurs, Rodolphe Saadé, on trouve des producteurs de lait, M. Meynier, on trouve des producteurs de guerre, M. Dassault, on trouve le grand luxe, l'industrie
Monsieur
du luxe.
Roussel,
vous ne trouvez
Monsieur
pas
Roussel.
Normal
et combien
que
d'emplois créés que... Combien d'emplois
mais,
générés
mais,
combien
mais,
de gens qui travaillent combien de familles
parce
qui sont nourries
y a des emplois créés,
combien
ils ont
de
le
choses
droit,
qui marchent dans notre
ils ont
pays
le droit, et parce qu'ils créent des emplois, Ils ont le droit d'amasser des fortunes que même toutes les générations qui vont suivre dans leur famille ne seront même pas dépensées tellement ils en auront. Enfin, ils sont passés de 570 milliards d'euros de patrimoine, ces 500 fortunes, à 1000 milliards en 5 ans. Leur fortune a grandi de 75% en l'espace de 5 ans grâce aux baisses d'impôts de M. Macron qui a endossé son habit de président des riches, là, à cette rentrée, en disant « c'est fini, c'est toujours cadeau pour eux et pour les Français, on se serre la ceinture ». Donc, oui, il y a besoin de faire une bascule. Et je dis fin. Il faut mettre fin à l'abondance, mettre fin à l'insouciance qui existe aujourd'hui chez ces grandes fortunes, chez ces multinationales, chez ceux qui aujourd'hui continuent d'avoir des marges très élevées.
Les pharmacies, par exemple. Les pharmacies ont de grandes marges.
Alors que nous sommes en période de crise.
Les pharmacies, par exemple, Fabien Roussel, ont de grandes marges. Avec la vaccination, ils ont fait des super profits. Est-ce que vous les mettez dans votre liste ou dans votre cible, si je vous entends ce matin ?
Merci de me servir sur un plat Sanofi qui fait partie, effectivement, des grands groupes qui, lors de ce premier semestre, ont eux aussi distribué des dividendes alors qu'ils ont licencié des chercheurs et qu'ils ont été infoutus de nous produire un vaccin contre la pandémie. Donc, oui, il y a besoin des réorienter
À vous entendre ce matin, il faut rendre gorge aux méchantes grandes entreprises qui se goinfrent.
Mais vous vous imaginez bien dans quelles difficultés se trouvent nos concitoyens et l'angoisse qu'il y a pour cette rentrée. On ne sait pas, on va devoir choisir pour beaucoup entre se nourrir ou se chauffer cet hiver. Il y a des menaces de blackout, effectivement, parce que 50% de nos centrales sont à l'arrêt, parce qu'il y a cette crise du gaz russe. Or, ce que nous demande le gouvernement, c'est « Ah, faites des efforts, mettez un pull, baissez le chauffage à 17 ». Mais on ne va rien demander à ceux-là, ceux dont, que je pointe du doigt, justement, qui aujourd'hui engendrent des super profits, continuent d'avoir un train de vie phénoménal, ont passé leurs vacances sur des yachts, ont fait des jet skis, sans le citer.
Alors, enfin, les yachts, les jet skis et l'assiette.
On ne relèvera pas, on ne relèvera pas ensemble le défi du dérèglement climatique sans s'attaquer aux inégalités sociales.
Monsieur Roussel, vous, l'adepte de la bonne viande, vous n'avez pas honte ?
Ah bon ?
Vous n'avez pas honte, avec votre barbecue, de mettre ainsi en avant votre virilité lors des barbecues, comme le dénonce Sandrine Rousseau ?
J'invite tout le monde à venir partager les barbecues et les bons repas de la fête de l'UMA les 9, 10 et 11 septembre prochains, parce que ça, c'est la fête de la bonne bouffe, de la gastronomie, mais aussi le grand rendez-vous politique et social de la rentrée. Et franchement, Mabrouk, vous n'allez pas me parler du sexe des escalopes, quand même. Je sais que certains font le buzz là-dessus. C'est pas mon sujet. Pour moi, on mange de la viande en fonction de ce que l'on a dans le porte-monnaie et pas de ce que l'on a dans sa culotte ou dans son slip. D'accord ?
Ça a le mérite d'être clair. Donc, vous n'adhérez pas à la thèse du patriarcat du steak.
C'est surtout ça qui me préoccupe. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit que l'accès à la bonne bouffe, à la gastronomie et notamment aux produits français issus de l'élevage français, eh bien, ça nécessite de payer plus cher sa viande et donc ça nécessite d'avoir un pouvoir d'achat plus élevé.
Si j'ai bien compris, vous n'allez pas partager bientôt un barbecue avec Sandrine Rousseau. Je voudrais vous faire réagir.
Mais si, ça, et je le ferai et je partagerai avec elle les brochettes issues de viande produite en France et d'éleveurs français qui respectent autant la terre, le vivant, que ceux qui produisent.
Je sais que vous êtes un auditeur attentif d'Europe 1. Vous avez entendu notre information exclusive ce matin, une note du renseignement territorial qui indique comment les islamistes ont participé au score à la présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. Ces prises de position ont été saluées par des activistes islamistes qui ont drainé un vote musulman. Ça ne vous étonne pas ?
Je vais regarder cette enquête que j'ai entendue sur votre antenne. Je pense qu'il serait plus juste de parler des musulmans dans leur ensemble, qui ont été particulièrement stigmatisés par la politique du gouvernement et que nous avons, nous, à chaque fois, nous, collectivement, à gauche, défendus quand ils faisaient l'objet d'attaques et de parallèles indécents. Parce que quand on tire un trait d'égalité entre musulmans, islamistes, terroristes, délinquants, c'est absolument scandaleux pour tous nos compatriotes qui, eux, sont d'ailleurs parmi les premiers, les musulmans, à souffrir du terrorisme islamiste que je dénonce et que je combats.
Merci Fabien Roussel et merci d'avoir fait votre entrée ce matin sur Europe 1. Bonne journée, à bientôt.
Merci à vous. Fabien Roussel, merci Sonia Mabrouk. La première de Yann Moix sur Europe 1, c'est dans un instant.
7h, 9h, Dimitri.
Dimitri Pavlenko.
8h31 avant aussi la chronique en absurdie d'Emmanuel Ducrot. Les dernières informations, Christophe Lamar.
Météo France prévient, cet été sera celui de tous les records. Chaleur, sécheresse et incendie. Les relevés définitifs seront dévoilés à 17h, mais on sait déjà que l'on a atteint des niveaux exceptionnels. Exemple à Nice, où l'on a enregistré 60 nuits tropicales consécutives avec des températures supérieures ou égales à 20 degrés. Emmanuel Macron présidera vendredi un conseil de défense consacré à l'énergie. Il sera accompagné de la première ministre Elisabeth Borne, du ministre de l'économie Bruno Le Maire et sa collègue de la transition énergétique Agnès Pannier-Runacher. Il sera question de l'approvisionnement en gaz et en électricité à l'approche de l'hiver. Et l'on apprend ce matin que le russe Gazprom réduit encore un peu plus ses livraisons de gaz à la France. Information communiquée à l'instant par l'opérateur Engie. Au Pakistan, le bilan des intempéries dépasse les 1100 morts, près d'un million de maisons détruites ou gravement endommagées. Selon les autorités, un tiers du pays est sous les eaux. Le pays connaît le pire épisode de mousson depuis 30 ans. Le secrétaire général des Nations Unies appelle à prendre des mesures immédiates pour désamorcer la situation en Irak. Depuis hier soir, la zone verte de Bagdad est plongée en plein chaos. Les affrontements entre les partisans du leader chiite Moqtada Sadr et l'armée régulière irakienne ont fait déjà 23 morts. 5 ans de prison ferme pour l'agresseur d'un médecin à Mulhouse. L'homme lui avait tiré dessus avec un fusil à billes, coupable selon lui d'avoir mis du temps à se déplacer. L'agression avait déclenché la colère de l'antenne locale de SOS Médecins qui avait suspendu ses visites à domicile. Enfin, le tennis, entrée réussie à l'US Open pour la future retraitée Serena Williams, qualifiée pour le second tour après sa victoire en 2-7 sur la Monténégrine Kjovinic. Qualification également de la Française Caroline Garcia.
Merci Christophe Lamar.
Europe Matin.
Dimitri Pavlenko.
Et c'est l'heure de la chronique en absurdie. Bonjour Emmanuel Ducrot.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Alors vous avez écouté hier, comme nous tous ici, la première ministre Elisabeth Borne. Elle s'exprimait devant les patrons du MEDEF à la rencontre des entrepreneurs de France. Et vous vous êtes retrouvé téléporté en absurdie quand on en est arrivé à parler d'énergie.
Ah oui Dimitri, c'était un moment exceptionnel. L'absurde élevé au rang d'art majeur, enfoncé, la Joconde, la chapelle Sixtine. Nous avions sous les yeux un joyau du non-sens, les conséquences de la politique énergétique française. C'était sublime. Je vous redonne le contexte. Elisabeth Borne a incité les patrons à établir des plans de sobriété pour réduire les consommations énergétiques de 10%. L'énergie flambe partout en Europe, on risque de manquer. Un appel à la sobriété, jusqu'ici tout va bien. Tout est logique.
Alors ça commence à déraper juste après.
Ah oui, parce que là, attention, la première ministre prévient. Les entreprises ont intérêt à faire des efforts, sinon elles seront les premières touchées par un rationnement de l'énergie. On leur coupera le robinet. Je vais reformuler un peu à ma sauce pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Les entreprises que l'on incite depuis la crise Covid à investir pour réindustrialiser la France et qui avaient comme atout compétitif, économique et écologique majeur une électricité nucléaire, fiable, décarbonée et bon marché, ces entreprises sont donc appelées à réduire la voilure pour pallier les loufoqueries coupables de l'État en matière énergétique.
Et pour vous, Emmanuel, Elisabeth Borne fait figure de muse de cet art majeur de l'absurdité énergétique.
Oh oui, vous savez, elle n'est pas la seule responsable. La France a désormais une longue tradition de sabotage énergétique. On devrait peut-être même demander à l'inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais enfin, c'est bien Elisabeth Borne qui, il y a 2 ans, expliquait que l'arrêt de la centrale nucléaire de Fessenheim, avant d'autres qui s'annonçaient, incarnait, je cite, l'écologie de la responsabilité. Elisabeth Borne, toujours, qui martelait que la part du nucléaire dans le mix électrique devait passer absolument sous les 50%, sans jamais réussir à nous expliquer pourquoi, et aussi comment, avec un mix énergétique de plus en plus intermittent, on décarbonerait l'économie en passant, par exemple, du gaz à l'électricité dans certaines industries. On n'a jamais réussi à savoir.
Vous êtes un peu de mauvaise foi quand même, Emmanuel. Il ne fallait pas mettre tous les œufs dans le même panier. On comprend la logique derrière ce 50% de nucléaire, pas plus. Ça, c'est quand même rationnel, cette idée de disperser le risque.
De mauvaise foi, moi ?
Bah oui, un peu.
Moi, Dimitri ? Écoutez, non, je ne suis pas d'accord. On a donc cessé de consolider le panier nucléaire qui avait fait ses preuves pendant 50 ans et qui garantissait donc stabilité, indépendance, prix bas et, je le répète, énergie, électricité décarbonée. On a préparé sa fermeture, on a perdu les conséquences et ce qui explique aujourd'hui qu'une part importante du parc soit à l'arrêt pour des rafistolages d'urgence. Et on a jugé futé de compléter avec des paniers percés. Dans tous les sens du terme, en déversant des milliards dans des énergies renouvelables hors de prix et qui produisent quand ça leur chante. Résultat, Eh ben, il n'y a plus de jus.
Enfin, Elisabeth Borne, elle est quand même aussi très en colère contre EDF.
Alors, je crois que c'est quand même le plus absurde de cette histoire et peut-être aussi le plus savoureux. EDF est, je le rappelle, une entreprise détenue par l'État à 83%. EDF fait exactement ce que l'État lui dit de faire. Il y a effectivement vraiment de quoi être très en colère contre ceux qui sont à l'origine de ces engrenages foutraques qui rendent nos entreprises si vulnérables au manque d'énergie. Comme une certaine Elisabeth Borne qui fut entre 2019 et 2020 ministre de la Transition écologique chargée de l'énergie.
Eh oui.
Si la première ministre la rencontre, celle-là, elle va passer un sale quart d'heure.
Comme quoi les vérités d'un jour ne sont pas forcément celles du lendemain. Les absurdités de la vie française que vous nous racontez, que vous nous décrypterez tout au long de la saison, cher Emmanuel. Merci à vous. 8h38 sur Europe 1.
7h, 9h,
Europe Matin.
Allez, un jour, une signature sur Europe 1. Bonjour Yann Moix.
Bonjour Dimitri.
Voilà, tous les mardis, on va vous retrouver dans Europe Matin à 8h38. Hein. Normalement, c'est 37, mais un peu en retard. Pour votre première chronique, ça va aller de pair avec ce que nous racontait Emmanuel à l'instant. Vous nous parlez, Yann, du climat.
Le climat n'est plus une question de météo. La nature n'est plus ce qu'elle était, ni l'orage, ni la pluie. La chaleur est-elle de droite ou de gauche? Le thermomètre en 2022 se doit de choisir son camp. Les intempéries votent à droite, accusent les gens de la gauche, de la gauche, de la gauche, de la gauche. Les déluges qui emportent les misérables dans la gadoue et ensevelissent les enfants du monde sont le fait de comportements égoïstes. Si la neige fond et que les pingouins suent, c'est parce que l'humanité a trop fait la fête aux alentours de 1975. L'homme d'hier est un salaud. L'homme du présent, un coupable. L'homme de l'avenir, un modèle. Il respirera le moins possible pour ne pas souiller l'atmosphère avec le dioxyde de carbone qu'il rejette en toute inconscience. Moi qui connais bien la Corée du Nord, et ne manque jamais une occasion de m'y référer, je dirais que la nature est l'équivalent chez nous du grand leader Kim Jong-un. Il s'agit d'éduquer les consommateurs, de punir les producteurs, d'humilier les profiteurs, de mettre les nocifs hors d'état de jouir. Bref, d'inventer un homme tout neuf, à l'austérité imparable, ennemi des excès, ami de la prudence, roi de la parcimonie, une sorte de pasteur 3.0, érotomane du bout de chandelle, chantre de la rétention, partant en guerre contre tout ce qui se dépense et dépense, vibre, brûle, court, vole. L'homme parasite n'est plus, c'est la victoire posthume de M. Grandet.
Alors, est-ce qu'une rédemption vous paraît possible pour les pêcheurs que nous sommes, Yann ?
La rédemption est possible, à condition de suivre les injonctions de cette église multiforme pour qui chaque individu est susceptible, aussitôt qu'il boit un verre d'eau, de devenir un apostat. On avait les rouges bruns, sinistre synthèse de stalinisme et de fascisme. Voici les noirs verts, mélange de mort et de chlorophylle, de catafalque et de sève, qui réclament au nom de la vie que nous existions un peu moins, que nous effacions nos traces au maximum. L'empreinte carbone, Dimitri, est l'autre nom de la traçabilité. Or, avec la traçabilité commence la délation. Avec la délation, la terreur. Avec la terreur, la mort. Il y a, oui, un écologisme morbide, qui est lui aussi une pollution. Les bureaux de la Stasi logent désormais dans une cabane au fond des bois. Les patrouilles vertes sont aux aguets. J'aime la nature, comme tout le monde. Mais les ayatollahs de l'air pur et de l'eau claire ne parlent jamais de nature, Dimitri.
Mais alors de quoi ils parlent, justement ?
Eh bien, ils emploient sans le savoir un mot qui détruit leurs principes et écorne leur idéologie. Ce mot, c'est environnement. Il faut respecter l'environnement. Dans l'environnement, les pierres, les herbes, les montagnes, la mer, les arbres et les animaux deviennent le décor de l'homme, le fond d'écran de ses aventures, le réceptacle de ses allées et venues. En fait, l'environnement n'existe que parce que l'homme peut le souiller. L'environnement, c'est la nature dénaturée, c'est la nature anthropomorphisée.
Mais la nature, c'est aussi un concept inventé d'une certaine manière, Yann. La nature en tant que telle, ça ne veut rien dire.
Vous avez raison. La nature a toujours été une invention humaine. Aujourd'hui bio, hier bucolique, hier relevant de Rousseau Jean-Jacques, aujourd'hui relevant de Rousseau Sandrine. À travers sa consécration morbide, son culte exagéré, c'est la culture, Dimitri, qu'on veut atteindre. Les arbres servent aussi à faire des livres. Faisons les minces. Proust, Balzac, Zola, avec leurs gros volumes déforestateurs, sont des assassins. On ne les lisait plus beaucoup. Voici enfin une excellente raison de ne plus les lire du tout. On ira se promener à la place. Oui. Mais où ?
Oui. Les volumes déforestateurs de Zola, Proust et Balzac. Tout de même, j'avais jamais vu les choses sous cet angle-là.
Mais eux, si.
Alors, j'ai reconnu, là, dans ce que vous venez de nous décrire, l'éminent représentant de l'Androcène. Savez-vous ce qu'est Landrossaigne, Anne Moix. Oui, vous savez, vous êtes au courant, vous avez lu Sandrine Rousseau. Mais on va en parler justement dans quelques minutes avec les deux invités de notre club de la presse ce matin. Mathieu Bock-Côté, qui a lu l'essai de Sandrine Rousseau consacré à Landrossaigne, et Adrien Matou, qui est journaliste à Marianne. Lui aussi, on a fait la lecture. Yann, je vous dis à la semaine prochaine.
Merci de votre accueil.
C'était un plaisir de vous recevoir.
Réciproque.
Et quant à Emmanuel, on se retrouve dès demain matin, 8h42 sur Europe 1.
Europe Matin. 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
8h44, le club de la presse sur Europe 1. Sur l'échelle des temps géologiques, vous savez, c'est l'histoire de la Terre. Les dinosaures ont popularisé le Jurassique. Les géologues se demandent maintenant si l'activité humaine est une force suffisamment puissante pour que l'on parle aujourd'hui de l'anthropocène. Et bien, les écoféministes vont un cran plus loin dans la désignation du coupable de la force géologique en question avec l'androcène. Ne cherchez pas le dictionnaire, il est trop jeune pour y apparaître. L'androcène serait l'ère géologique pendant laquelle les hommes, c'est-à-dire le sexe masculin, est responsable de tous les maux. Le mâle alpha de l'androcène, c'est l'entrepreneur qui veut aller sur Mars, qui fabrique des voitures à partir de minerais qu'on arracherait à Gaïa, la Terre-mère. Au 19e siècle, ce mâle alpha de l'androcène aurait porté l'uniforme du colonisateur. Par-delà l'androcène, paru chez Seuil, c'est le titre d'un court livre qui est co-signé de la députée Europe Écologie Les Verts, Sandrine Rousseau, sur lequel on va se pencher ce matin avec nos deux éditorialistes. Bonjour Mathieu Bock-Côté.
Bonjour.
Plaisir de vous retrouver, sociologue, éditorialiste. Je sais que le concept d'androcène vous fascine. Vous avez le petit fascicule.
Hein, tout souligné, tout travaillé.
Voilà, tout travaillé. Adrien Matou, journaliste à Marianne, est avec nous également. Bonjour Adrien.
Bonjour.
Vous aussi, vous avez lu. Vous n'avez pas, la preuve sous les yeux, mais je vous fais confiance.
Si, je l'ai lu.
Est-ce que vous en recommandez la lecture l'un et l'autre de ce petit fascicule qui est assez court, c'est une soixantaine de pages. Hein.
Alors oui, mais pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire que la tentation mauvaise, chez ceux qui sont critiques de ces folies associées à la gauche radicale, c'est de dire ça va pas assez, c'est pas sérieux, ce sont des lubies, c'est pas vraiment intelligent, c'est pas vraiment intéressant. Le problème, c'est que ces idées ont tendance à se normaliser, à se banaliser, à être reprises tôt ou tard par les figures qui se veulent modérées, raisonnables. Oui. Et je donne l'exemple du planning familial ces dernières semaines, ces derniers jours en fait. Il y a quelques années, on vous aurait dit « un homme peut être enceinte », on aurait dit « c'est fou, ça va passer, quelle connerie ». Aujourd'hui, quand on dit « oui, mais un homme peut être enceinte », plusieurs disent « non, c'est faux », eh bien l'accusation, le gouvernement reprend l'accusation de transphobie contre ceux qui disent qu'un homme ne peut pas être enceinte. Alors, il faut lire ça parce que dans quelques années, de telles thèses vont être normalisées à l'université, vont être banalisées dans la gauche radicale et ensuite la gauche modérée court après la gauche radicale pour demeurer de gauche. Donc, il faut prendre au sérieux un tel ouvrage qui propose une forme de synthèse entre les différents courants justement de gauche radicale aujourd'hui et qui non seulement fait le procès du capitalisme, mais de l'existence même de notre civilisation depuis Descartes et Christophe Colomb.
Est-ce que le phénomène est le suivant, c'est-à-dire que certains pourront s'indigner que l'on désigne comme ça Sandrine Rousseau et qu'on la moque, alors qu'en réalité, simplement le fait qu'elle en parle dans cet ouvrage fait accéder à un public large à une notion qui est débattue de longue date dans les milieux écoféministes, Adrien Matou. Le processus est le suivant.
Alors, pour répondre à la première question, Alors effectivement, peut-être pour ce que disait Mathieu, ça peut être intéressant pour se rendre compte du phénomène à l'œuvre. Ceci dit, ce n'est pas une lecture très distrayante. Vous savez, c'est comme en météo, c'est comme en littérature, il y a la température et le ressenti. Là, c'est 60 pages, mais le ressenti, c'est plus 600 que 60.
Vous avez souffert à la lecture de
C'était
ces
un petit
64
peu long.
Pages.
Ceci dit, alors, je nuancerai un peu l'inquiétude de Mathieu parce que je trouve que le contenu du livre n'est pas suffisamment sérieux pour servir de base théorique. C'est-à-dire que l'androcène, donc, qui est défini, en gros, l'anthropocène, c'est l'ère à partir de laquelle l'humain
devient force géologique.
Voilà. Modifie l'environnement de manière irréversible. L'androcène, on essaie de pointer la responsabilité des hommes, de certains hommes, mais en fait, c'est un concept complètement fourre-tout dans le livre, et l'androcène est responsable de absolument tout, depuis l'esclavage jusqu'à la Shoah, en passant par l'écriture non inclusive.
Si vous me permettez, je lis un court extrait pour ambiancer l'auditeur. Elle parle de la société industrielle anglaise du 19e siècle qui serait à l'origine du dérèglement climatique. Voilà ce qu'écrit Sandrine Rousseau et ses deux co-auteurs. Le dérèglement climatique aurait été favorisé, voire rendu possible par une concentration patriarcale transgénérationnelle du capital houillé et industriel au profit d'une poignée d'héritiers, justifiant qu'on ne parle pas seulement de capitalocène, mais plus spécifiquement de patriarcat capitalocène.
Oui, non, c'est la logique intersectionnelle appliquée à l'écologisme. C'est ça qui est assez particulier. C'est-à-dire tous les courants, comme il y a ceux qui détestent par exemple les mangeurs de viande, ceux qui détestent ensuite ceux qui font probablement des poisés haltères, il y a ceux qui détestent ceux qui font des voyages et qui ont une piscine privée, et probablement ceux qui regardent des films d'action et qui ont aimé Top Gun. Et ben, on trouve une espèce de point fédérateur entre tout cela.
Je me reconnais dans l'homme que vous
Mais c'est bien vous, je parle de vous, Dimitri. Oui, alors, on rassemble tout ça ensemble et on a un concept qui permet de fédérer les luttes sous un étendard commun. Alors que la puissance théorique de cet ouvrage soit nulle est indéniable. Mais le fait est que nous sommes devant un manifeste qui a une efficacité politique, qui est d'ailleurs accueilli comme tel dans Libération, par exemple, on dit un ouvrage décapant, un ouvrage percutant. Alors, il y a une forme de désir de se reconnaître dans cette espèce de théorie très large qui embrasse tout et qui permet de fédérer des courants contradictoires, mais dans un ennemi commun, qui est l'homme blanc hétérosexuel d'Occident.
Alors, on parle entre hommes là de la production littéraire, enfin théorique, d'une femme à propos des hommes. Emmanuel Ducrot est resté avec nous, hein, je le précise quand même. Emmanuel, vous intervenez, vous n'hésitez pas.
Je m'interrogeais sur la conduite que je dois désormais tenir sur ce plateau. Je pense que déjà vous devriez tous vous taire, hein, vous êtes tous coupables. Moi, moins que vous, un peu quand même, mais moins que vous. Je suis assez sidérée de ce débat parce que qu'est-ce que ça veut dire quand on tire le fil jusqu'au bout ? Ça veut dire qu'en fait, on doit éradiquer l'homme du débat public. Il a tellement fait de mal que la femme devrait, en soi, intrinsèquement prendre le pouvoir parce qu'elle serait intrinsèquement meilleure. On sent bien à quel point c'est délirant comme... C'est absolument délirant comme thèse. Je veux dire, c'est intéressant de lire ce constat qui est foutraque.
Mais les lecteurs du livre, justement, dites-nous, est-ce que c'est précisément ce que préconise Sandrine Rousseau ? L'homme a tellement failli que c'est place aux femmes.
Justement, c'est peut-être un petit peu décevant, à la limite, parce que les préconisations, selon moi, selon le livre, en fait, sont plus des espèces d'injonctions, un peu comme un manuel de développement personnel, que des mesures politiques. Je vous donne juste deux exemples. Le livre est vraiment truffé de phrases comme ça. Il n'y a aucune proposition concrète. C'est que des phrases du type « Trop peu de perspectives qui nous fassent réellement vibrer. Il nous faut des règles. Il nous faut également des rêves. » Ou « Nier sa sensibilité n'est pas sans conséquence. À trop retenir nos larmes, nos peurs et nos colères, nous nous empoisonnons. » Donc finalement, on est un petit peu moins inquiet parce qu'il n'y a pas vraiment de perspective concrète. C'est juste des espèces d'injonctions lifestyle, quoi.
Je dirais qu'il faut faire confiance aux militants de cette tendance pour trouver des idées concrètes ensuite pour nous empoisonner la vie.
Ah bah, donnons-en une, c'est celle qu'avait émise Sandrine Rousseau de créer un délit de non-partage des tâches domestiques.
Oui, donc, autrement dit, elle nous explique d'ailleurs dans l'ouvrage que la vie privée n'existe pas. Alors ça, c'est un vieux classique de l'extrême gauche. La vie privée n'existe pas. Il faut politiser l'intime.
Tout est politique.
Donc politiser l'intime, c'est politiser la télécommande à la maison, mais politiser la manière dont on fait la vaisselle, on s'en souvient, elle avait proposé. Et n'oublions pas, quand il y a eu la course à la direction pour la présidentielle chez les écolos, eh bien, Alice Coffin, qui soutenait Sandrine Rousseau, avait dit « Si Yannick Jadot est un vrai féministe, il accepterait de s'éclipser parce qu'il faut qu'une femme l'emporte en tant que telle. » Donc, à la question posée « Est-ce que les hommes doivent disparaître du portrait ?» La réponse, c'est oui. Alors, on l'exprime avec un degré de généralité dans cet ouvrage, un peu, pour ne pas... En fait, pour qu'on n'ait pas les petites phrases qui permettraient de dire ben voilà exactement, vous voulez chasser les hommes de la vie publique aussi clairement que ça, mais la volonté d'humilier l'homme. Je pense que c'est central à la querelle du barbecue dont on a parlé ces derniers jours. C'est pas artificiel, c'est une volonté d'humilier, hein, le résidu de masculinité ou de virilité qui peut exister chez l'homme en son pavillon de banlieue, en disant même là, hein, petit homme mesquin, petit homme satanisé, tu pollues la planète et tu détruis la planète en t'adonnant au plaisir de l'entrecôte et nous allons te poursuivre jusque dans ta cour de maison. Et c'est cette logique de politisation de l'intime qui est une logique aussi, en dernière instance, de persécution.
Par de là, l'Androcène, donc, c'est audité au seuil. Je donne le nom des deux autres auteurs. Adélaïde Bon, Sandrine Rousseau, c'est ça, et Sandrine Rousseau. Autre affaire qui va vous intéresser également, alors dans un genre différent, quoique, la secrétaire d'État chargée de l'Europe, Laurence Boone, vous savez, c'est l'ancienne chef économiste de l'OCDE, a reproché hier à la Commission européenne son soutien au FEMISO. FEMISO, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est la branche jeune d'une organisation réputée proche des frères musulmans. Donc vous voyez l'histoire, c'est-à-dire qu'en fait, on reproche à la Commission européenne, d'une certaine complaisance avec des associations qui militent clairement pour libéraliser le port du voile. Hein. Et ce FEMISO est très proche de l'Union des organisations islamiques en Europe. Qu'est-ce que c'est que l'UOIE ? C'est les frères musulmans, en fait. Hein. Voilà, très clairement. Voilà. Marianne y a consacré plusieurs articles à Adrien Matou. Cette histoire-là, ces reproches adressés par la France à la Commission européenne, qui n'aurait pas les yeux suffisamment grand ouverts sur ses partenaires sur les questions de laïcité. Qu'est-ce que ça nous dit ?
Alors, à mon avis, ça nous dit deux choses. D'une part, c'est que les mouvements islamistes qui, au fond, détestent l'état de droit, détestent la démocratie, détestent la protection des minorités. S'ils étaient au pouvoir, jamais aucun de ces principes ne serait mis en œuvre. Ils utilisent, ils instrumentalisent tout ce que les démocraties libérales occidentales ont comme principes fondamentaux pour faire avancer leur cause. Ils instrumentalisent ça et ils n'hésiteront jamais à aller devant les tribunaux, à revendiquer le droit des minorités, etc. Et la deuxième chose que ça révèle, c'est que l'Union européenne est une entité qui est en fait un grand marché, mais qui ne tient aucune réflexion sur ce qu'est la civilisation européenne. Mmh. On sait ce qu'est l'UE, mais l'UE ne sait pas ce qu'est la civilisation européenne. Et en fait, quelque part, il y a une forme de neutralité axiologique, c'est un terme compliqué pour dire que l'UE est un marché, et elle a théorisé le fait que son identité était de ne pas en avoir. Mmh. On considère que l'Europe est en fait juste une plateforme
dans cet
où
espace,
toutes les cultures...
Dans cet espace sans identité, le hijab, le port du hijab est une
mais
liberté.
Mais c'est une culture pas comme une autre.
Mais ça va plus loin en dernière instance, parce que le hijab, devient d'abord, il faut d'abord l'accepter, mais on pourrait dire que c'est la logique canadienne. En dernière instance, on le brandit comme un symbole de notre propre ouverture. Et on l'a vu au Canada, pas seulement le hijab, mais le niqab a été brandi par la classe politique canadienne comme la preuve de l'ouverture absolue du Canada à la différence. Eh bien, l'Union européenne, qui effectivement l'Union européenne a peu de choses à voir avec la civilisation européenne, eh bien, par multiculturalisme, eh bien, en vient. La première étape du multiculturalisme, c'est l'inversion du devoir d'intégration. Mais l'étape suivante, ça consiste à dire que c'est le symbole
pourquoi
qui...
Attendez, pourquoi vous dites le multiculturalisme, c'est...
L'inversion du devoir d'intégration. Oui. Traditionnellement, c'était la vocation du nouvel arrivant de prendre le pli de la société d'accueil. Oui. Le multiculturalisme nous dit que c'est la société d'accueil qui doit s'adapter au nouvel arrivant. La prochaine étape dans tout cela, c'est de nous dire le symbole qui nous contredit doit être embrassé parce qu'il est justement la preuve de notre propre ouverture. Et de ce point de vue, le hijab, demain, le niqab, demain ou après-demain, on verra. Mais le hijab est brandi et va marquer une ouverture explicite, ostentatoire au hijab, c'est une manière de se féliciter soi-même pour sa propre ouverture. Mmh. Et ce qu'il faudra dénoncer en dernière instance, ce n'est pas le hijab, mais ceux qui dénoncent le hijab. Et on le traite en plus, et là c'est la mécanique dégénérée d'un certain libéralisme, pas de tout le libéralisme, qui nous dit eh bien ce n'est qu'une manifestation de spiritualité individuelle. Et on refuse de prendre conscience des revendications ethno-religieuses conquérantes d'un certain islam qui instrumentalise, Adrien le disait, tous les principes de l'état de droit pour être capable de tapisser l'espace public de symboles religieux sous le signe d'une volonté de conquête de l'espace public.
Merci à tous les deux. Merci de vos éclaircissements. Merci. Absolument passionnants. À mettre en lien d'ailleurs avec l'information qu'Europe 1 vous révélait ce matin, cette note du renseignement territorial, nous montrant que les frères musulmans ont activement travaillé à ce que les musulmans de France votent pour Jean-Luc Mélenchon, candidat qui leur paraissait, je les cite, les plus compatibles avec la laïcité. Et je trouve que l'emploi par les frères musulmans du mot de laïcité est quand même extrêmement signifiant.
Ça s'inscrit dans ce que j'expliquais sur la récupération.
L'inversion totale du sens du mot laïcité.
La guerre du langage est centrale. Hein, ouais. Ça permet finalement de paralyser l'adversaire qui ne sait plus à quoi réfère les mots.
Merci messieurs, Mathieu Bocoté, Adrien Matou de Marianne et Madame Emmanuel Ducrot qui est restée avec nous. Un monsieur aussi est entré dans le studio avec un beau t-shirt. Bonjour Philippe Vandel.
Bonjour Dimitri.
Vous n'avez pas mis de chapeau aujourd'hui.
Pourquoi aurais-je mis un chapeau?
Parce que vous avez une invitée à chapeau aujourd'hui.
Ex à chapeau, Amélie Nothomb a parlé de son petit dernier livre, c'est le livre des sœurs, 31e roman. Et a noté que sur la photo de couverture sur la jaquette, elle n'a pas de chapeau et ça a été suffisamment intéressant pour se relever par les commentateurs avisés. Au sommaire également, ça devait être la fusion du siècle, la fusion TF1-M6, les deux principaux groupes privés. On est parti en vacances. Ça devait se faire et pendant les vacances, l'autorité de la concurrence a dit non, c'est plus compliqué que ça, ça risque d'être annulé. On sera avec deux très bons spécialistes des médias, Sandrine Cassini du Monde, Olivier Hubertali du Point, pour nous dire ce qu'il en est. Et puis au sommaire également, le 34e festival Visa pour l'image, c'est à Perpignan. On sera avec son directeur Jean-François Leroy. Il n'y a pas que l'Ukraine dans la vie du photojournalisme, mais on parlera également de l'Ukraine.
Voilà, c'est le menu de Culture Média qui démarre dans 5 minutes. Merci beaucoup Philippe, excellente journée. Europe Matin, on se retrouve demain matin à partir de 5h avec Combline Roche et Alexandre Lemaire et en 7-9 avec moi-même à partir de demain 8h58. À demain.